Bonjour. Bienvenue à vous dans ce groupe de partage autour de la non-dualité, autour des enseignements qui nous disent d'une manière ou d'une autre, nous sommes un, tout est un, il n'y a qu'une seule chose, il n'y a que l'unité. Voilà, nous sommes le samedi 19 mai 2012. Et j'en profite pour accueillir aussi les nombreux frères et sœurs qui en ce moment nous écoutent et qui font que notre groupe est bien plus large qu'il n'y paraît. Je vais commencer avec un petit son de cloche, juste pour nous rappeler dans ce son, pour nous inviter à partager un petit moment de présence ensemble. Merci. Je suis vraiment très heureux de faire partie de ce groupe de partage qui est élargi aujourd'hui. Et voilà, je sens profondément que c'est juste d'élargir, de diffuser un peu ces connaissances sur la non-dualité, ces ressentis en cette période particulière de l'humanité qui fait que pour certains, tout vibre beaucoup plus vite. Le temps semble s'accélérer et il y a beaucoup plus de présence à maintenant, à ce qui se passe maintenant. Donc c'est un groupe qui va viser à ce qu'on partage à propos de notre véritable nature et aussi de tout ce qui parfois semble s'éloigner de notre véritable nature, toutes les manifestations de l'ego. Le sentiment d'être séparés les uns des autres, ou les jugements, les colères, les angoisses. Voilà, il n'y a pas que l'unité comme sujet, puisque nous sommes dans un monde de dualité. Nous pouvons parler de ce qui fait le pont entre la dualité et l'unité. Et nous pouvons tout à fait commencer par invoquer une situation difficile de notre vie quotidienne, et puis demander un éclairage, ou poser une question à propos de cette situation, comment elle est vue avec un esprit non-duel. Et voilà, ça peut porter parfois certaines lumières, certaines guérisons même à propos de ça. Alors j'ai mis un certain nombre de phrases qui sous-tendent un petit peu l'après-midi d'aujourd'hui. C'est pas du tout limitatif et c'est même pas obligatoire qu'on les aborde, mais peut-être certaines vous parleront plus que d'autres. Alors j'ai indiqué comment mieux percevoir notre nature véritable, comment pacifier notre vie avec le vrai pardon, tous les sens que peut avoir le mot Dieu dans la non-dualité, choisir d'être heureux plutôt que d'avoir raison, identifier l'ego comme la croyance d'être séparé. On pourra parler aussi du pouvoir divin de nos intentions, du fait que ce que je vois du monde est un reflet de mes pensées, de parler de deux niveaux de perception qui sont réalité d'une part et illusion d'autre part. Et puis comment être dans le monde de la dualité sans en être, sans être du monde. À quoi aussi peut servir le scénario de nos vies sur la Terre, du fait que la vraie guérison, au sens de voir les choses correctement, elle est de l'esprit. On pourra parler de la nature du voile de séparation, ce que nous percevons comme voilé. On pourra aussi aborder, si vous le souhaitez, la nature, le plan divin pour l'humanité. Qu'est-ce que c'est que ce plan divin ? Et puis parler de l'ego, on pourra peut-être aborder, apprivoiser l'ego et le remettre à notre service. Et puis en dernier, ce que j'ai écrit, c'est le monde subtil est à nos côtés, pour nous fournir de l'aide en permanence. Voilà, pour tous ceux qui ont des choses à partager à propos de ça. Alors, à propos du monde subtil, avant de commencer réellement ce partage, je vais citer 5 phrases de ce livre bleu, Un cours en miracle, qui apparaissent à la page 30 et qui font que cette soirée n'est pas organisée. Il n'y a pas de programme, même s'il y a des directions. Il n'y a pas de programme et elle est entièrement guidée, on peut même dire téléguidée. C'est-à-dire que ce qui doit se dire se dira, et puis ce qui n'est pas prêt à se dire, ben, ne se dira pas. Et c'est pas nous qui décidons. Hein. C'est, il y a quelque chose où nous invoquons le monde subtil pour nous guider à faire ou à dire des choses. Alors c'est dit d'une manière assez parlante pour moi dans ces 5 phrases. Et ces 5 phrases, elles disent simplement ceci. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Voilà, ça parle beaucoup de confiance, hein, surtout les troisième et quatrième phrases. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire. Laisser les choses se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler. Et puis il n'y a pas de volonté particulière à mettre pour cela, juste à laisser les choses se faire. Alors je vais introduire un petit peu des concepts de non-dualité, puis ensuite on pourra partager librement. Alors comme on parle beaucoup de ce gros livre bleu, environ 1300 pages, hein, qui s'appelle Un cours en miracle, je vais brièvement parler de son histoire, parce qu'il est assez majeur, c'est comme un événement, hein, au niveau de la non-dualité qui s'est produit à la fin des années 60. Donc il y avait 2 psychologues à New York, hein, qui s'appelaient Bill Tedford et Helen Schuckman, donc un homme et une femme. Et puis, dans leur université, ils étaient beaucoup en conflit dans les réunions. Chacun essayait d'avoir raison, chacun essayait d'avoir le dernier mot. Et puis, c'était très usant pour ces deux-là. Et à un moment donné, c'est Bill ou c'est Hélène, je m'en rappelle pas, qui disait, il doit bien y avoir une autre voie que ces conflits perpétuels. Et en réponse à cette phrase, elle a reçu dans sa tête, à partir de ce moment-là, une phrase qui répétait de manière récurrente « Ceci est un cours en miracle, s'il te plaît, prends note. » Et cette phrase redisait toujours la même chose. Elle pensait devenir folle. Elle en a parlé à Bill, son collègue, et puis il lui a dit « Tu peux essayer de prendre note, et puis si c'est du charabia, on le jettera. » Donc elle a commencé à prendre note, ça a duré 7 ans. En plusieurs phases, hein, plusieurs, il y a trois gros livres dans le livre lui-même. Et ça a donné un cours en miracle. Alors l'auteur c'est Jésus, mais Jésus au sens Yeshua, au sens l'énergie de Jésus, qui revient pour apporter aussi une réponse à cette question. Il doit bien y avoir une autre voie, hein, que celle de toujours être dominé par le besoin d'avoir raison. Voilà, alors le vocabulaire est issu du christianisme, mais le fond est profondément non-duel. Parfois, c'est pour certains un peu rebutant, mais voilà, c'est important de se rappeler que c'est le fond qui a de l'importance. Donc, de quoi se compose ce livre ? Il y a un texte, c'est-à-dire une partie théorique qui fait environ 700 pages, qui est le fondement des exercices qui suivent. Il y a 365 exercices pour la vie de tous les jours à pratiquer, a priori, une fois, un par jour, hein, pendant un an, mais ça peut durer plus qu'un an. Et puis ensuite, il y a un manuel pour enseignants, et puis une clarification des termes. Donc les trois livres principaux sont ensemble, de manière à ce qu'ils ne puissent pas être séparés, hein, qu'ils ne puissent pas être déformés. C'est comme un seul et même livre. Alors il y a ce livre, mais il y a plein d'autres livres. Hein. Dans l'entrée, vous trouverez d'autres livres sur la non-dualité, la spiritualité. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Pour moi, il est très parlant, surtout parce qu'il y a quelque chose de pratique, hein, au niveau des exercices. Ça parle beaucoup du pardon véritable, on aura sûrement l'occasion d'en parler, de la nature illusoire de ce qu'on perçoit comme étant notre réalité. Voilà. Mais il n'y a pas d'obligation d'approuver ou simplement de connaître ce livre. Ça n'a aucune importance particulière. C'est simplement un état d'esprit. Hein. La non-dualité, il peut être induit par ce livre ou par un autre, ou par la vie de tous les jours. Hein, parce que certains peuvent avoir des révélations, des états de grâce, des perceptions nouvelles dans leur vie qui font que la vie change tout d'un coup. L'état d'esprit, la vision des choses se modifie. Alors dans ces groupes, nous répétons souvent une phrase, et cette phrase est très simple, elle dit simplement « Dieu est ». C'est un des fondements de la non-dualité. Alors Dieu, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un concept, le même mot que celui qu'emploient les religions dogmatiques, qui place Dieu à l'extérieur, ou Dieu comme une personnalité, une entité qui est capable de jalousie, de vengeance, de choses, de colère, des choses comme ça. Mais c'est plutôt dans le sens Dieu est tout ce qui est, c'est-à-dire il n'y a que Dieu, mais on peut très bien dire l'univers, on peut très bien dire la source, on peut très bien dire la totalité de l'existence. Le mot Dieu est d'une certaine manière didactique, hein, parce qu'on connaît ce mot et puis on sait aussi à quoi il réfère la plupart du temps. Voilà, alors, c'est utile de dire que lorsqu'on dit Dieu est tout ce qui est, Dieu étant tout ce qui est ne peut s'opposer à rien, puisqu'il est tout. Hein. S'il s'opposait à quoi que ce soit, il s'opposerait à lui-même. Hein. Si on parle du concept de l'unité, nous sommes un, et Dieu est, alors Dieu est forcément pur accueil. Dieu en tant que la totalité de l'existence, comme l'intelligence de la vie, hein, je pourrais dire aussi. Alors, si Dieu est pur accueil, Dieu ne peut s'opposer à rien, et Dieu n'a aucun jugement sur quoi que ce soit que je puisse décider dans ma vie ici humaine, terrestre, ou que l'humanité en tant que telle puisse décider, ou qu'un pays décide s'il y a une guerre, s'il y a quoi que ce soit. Dieu dit oui à tout. Dieu ne connaît qu'un seul mot, c'est d'accord. Voilà, alors pour certains c'est incompréhensible, pour certains c'est même révoltant, pour certains c'est violent. Tout ça c'est parfaitement d'accord, hein, comme dit Dieu. C'est parce que y a un niveau de perception qui est celui de la vie humaine, et puis il y en a un autre qui est celui de l'esprit, qui est qui n'est pas dans l'espace, qui n'est pas dans le temps, dont c'est le sujet aujourd'hui, hein, de partager. Et pour passer de l'un à l'autre, il est nécessaire de changer de vision à propos de certaines choses, hein, à propos de l'état de victime, à propos d'être responsable de ce que je vis, etc. Donc c'est déjà beaucoup, hein, de dire Dieu accueille tout, hein, Dieu ne juge absolument rien. Si je me base là-dessus pour agir moi-même, ça peut impliquer de profonds changements dans ma vie. Si je dis il se passe ce qui se passe, et ben cela est, comme Dieu est, je peux essayer d'envisager les choses différemment. Comme disait Hélène Schuckmann, il doit bien y avoir une autre voie, hein, que cette vie humaine dans laquelle il y a souvent des problèmes apparents, des impasses, et où le bonheur est difficile à trouver. Et lorsque nous le trouvons, il est souvent illusoire et temporaire. C'est-à-dire que j'ai envie de gagner au loto, ben, si j'ai une somme d'argent qui m'arrive, temporairement je suis très heureux, je me dis « Ah, je vais pouvoir m'acheter plein de choses, avoir une belle maison. Et puis, à un moment donné, il s'avère que c'est pas non plus ça qui donne le bonheur, et la question est reposée. Quel est le sens de ma vie? Comment aimer vraiment? Comment être réellement heureux? Voilà. Sur ces quelques prémices, je cède la parole. Donc, je pose le micro, le prend qui veut. Et puis, si à un moment donné, il y a des choses qui sont dites et que ça demande pour vous une clarification, simplement levez la main et on vous passera le micro. Ça peut même être au milieu d'une phrase. Donc, ce n'est pas une conférence au sens premier du terme, mais c'est réellement une conférence partage. Hein, c'est-à-dire que tout le monde peut y prendre part et à n'importe quel moment, pour que voilà, la diversité de qui nous sommes soit vraiment reflétée. Alors, des situations de la vie quotidienne ou des partages de moments non duels que vous vivez, tout ça est bienvenu. Il n'y a pas de situation hors sujet, puisque quoi que ce soit que vous disiez, c'est possible d'une manière ou d'une autre de le rattacher au monde réel, au monde de l'unité, hein, qui est le sujet de ce groupe. J'ai parlé.
Je ne connais pas du tout ce livre. Par contre, ça m'évoque un autre livre que je connais, qui s'appelle « Dialogue avec l'ange ». Est-ce que c'est une expérience, ce livre correspond à une expérience similaire au « Dialogue avec l'ange » ? Vous connaissez les « Dialogues avec l'ange » ? Et bon, c'est pas, il y a pareil, il y a un monde subtil qui s'est manifesté. Et voilà, je me posais la question si on pouvait faire un lien.
Effectivement, Dialogue avec l'ange, c'est Gita Malas, et c'est en Hongrie, en 42-43, Gita Malas, qui est avec trois autres personnes, deux femmes et un homme, et qui commence à avoir toutes les semaines, le vendredi, ils ont une réunion, et puis il y a Anna, qui est celle qui est professeure de dessin, qui canalise de l'information, c'est-à-dire qu'en fait, et ça commence le premier jour, où elle dit « attention, c'est plus moi qui parle ». Donc effectivement, il y a un phénomène de canalisation. Et à ce moment-là, la première phrase, c'est, elle dit à Gita, on va te faire perdre l'habitude de poser des questions inutiles ou idiotes. Et c'est très fort. Donc, il y a une canalisation. Dans le cours en miracle, c'est la même chose. Ellen Schuckman était donc dans la Columbia University à New York en 1965. Son patron, Bill Thetford, qui avait 14 ans de moins qu'elle, ils avaient effectivement une relation difficile. Et puis elle était médium, donc elle avait des images, elle voyait des choses, elle avait des rêves prémonitoires, elle avait un tas de choses qui se passaient, mais elle voulait pas qu'on le sache. Et donc pendant l'été 65, cette voix revenait tout le temps, et elle a eu aussi des expériences, des visions qui sont accélérées, accentuées, et cette voix disait, ceci est un cours en miracle. Donc c'est vraiment une canalisation. Comme dans Dialogue avec l'ange, où il y a cette Anna, qui canalise donc une entité, en l'occurrence c'est l'ange, mais on s'aperçoit qu'il y a plusieurs anges, et puis etc. Donc à chaque fois, ce phénomène de canalisation, d'ailleurs quelque chose qui est très utilisé par l'esprit pour le réveil de conscience sur cette planète, mais c'est jamais une fin en soi. Et on peut dire que tout le monde canalise. On est tous des canaux. Quand tout d'un coup on dit « Ah, il m'est venu l'idée que », ça vient d'où cette idée-là? Donc, attention. Il y a effectivement des formes de canalisation très pratiques où des gens sont ce qu'on appelle channel. C'est d'ailleurs à chaque fois différent, c'est jamais la même chose. Chacun a une expérience différente. Et donc, ce phénomène de canalisation. Pour répondre à ta question, effectivement, il y a de plus en plus de livres canalisés. Et puis, de plus en plus aussi, j'observe, et vous allez voir le phénomène s'accélérer, on le voit, des frères et des sœurs qui canalisent, et puis tout d'un coup, leur voix leur dit « maintenant j'arrête, je te quitte ». Et donc il y a panique, parce qu'en fait ils avaient l'impression d'être quelqu'un, d'apporter un message, parce qu'ils canalisaient quelque chose qui semblait venir de l'extérieur. Mais la vraie canalisation, c'est dire « l'ange c'est toi ». Par exemple, Gita Malas, l'ange lui dit « j'habite dans le sourire ». Et finalement, les vraies canalisations, enfin les vraies, tout est vrai, puisqu'il n'y a que la vérité qui existe, c'est l'amour que nous sommes. Donc, même le cours en miracle, dialogue avec l'ange, tous ces instruments, ces livres, ces canalisations, tout ça, ce sont des outils au service de la conscience, au service de qui nous sommes, au service du réveil planétaire. C'est pour ça qu'effectivement, c'est vrai qu'ici, on parle pas mal d'un courant miracle, mais même le courant miracle le dit, c'est un instrument parmi beaucoup d'autres. Donc, on relativise tout, et puis chacun fait ce qu'il sent. La vie, quand il fait ses groupes, on sent bien, il dit, mais faites ce que vous sentez, faites ce que vous sentez. Et c'est ce qu'on dit à tout le monde. C'est pour ça qu'il a parlé aussi du non-jugement. Et Dieu ne juge pas. Et c'est ça la vraie clé, c'est ce non-jugement absolu, qui est la nature de qui nous sommes. Si Dieu est tout ce qui est, si la vie est la vie est présence, elle est essence, elle est immanente, elle est au-delà du temps et de l'espace. Hein. On a l'impression que le temps et l'espace existent, mais même les physiciens quantiques sont en train de démontrer que ça n'existe pas, mais ça semble vraiment exister. Et donc on commence à toucher à quelque chose de très profond qui nous secoue peu à peu, c'est notre illusion, l'impression d'être dans un monde séparé, et puis une réalité qui est non séparée. Et donc tous ces enseignements, y compris par exemple dialogue avec l'ange, enfin tout ce qu'on voit, finalement on s'aperçoit avec beaucoup d'observations que tout concourt à la même chose. C'est pour ça que le courant miracle va nous dire dans une des premières leçons, vous ne savez jamais pourquoi sont faites les choses. Et en fait, toutes les choses sont faites pour le meilleur de vos intérêts. Dans la leçon 135, cette fameuse leçon qu'on cite énormément, il y a une phrase qu'on cite indéfiniment parce qu'elle est extrêmement significative. Elle dit la chose suivante. Que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout événement, tout ce qui arrive, tout événement, passé, présent et futur, est planifié avec amour et bienveillance par l'un, par quelqu'un, en fait, qu'il appelle le Saint-Esprit ou l'Esprit, c'est qui nous sommes. Tout est planifié par l'un dont le seul but est notre bien. Et tout à l'heure, dans les questions qu'Avi a évoquées, il parlait du plan divin. Et bien, le plan divin, justement, c'est cette intelligence qui mène toute la danse, toute cette pièce de théâtre que nous semblons vivre ensemble. Et ce que Jésus appelait l'esprit à l'œuvre dans le monde. L'esprit, c'est l'esprit qui guide tout. Alors, on va dire, comment l'esprit guide tout? Mais pourtant, il y a des accidents, il y a des choses qui semblent apparaître comme ça au hasard. Eh bien non, justement. À cause de qui nous sommes, justement. Donc, il y a quelque chose de très paradoxal entre l'esprit qui guide tout et puis l'esprit qui dit oui à tout. Et qui dit oui, tu veux les guérir? Ben oui, oui. Et c'est oui tout le temps. Donc, il y a un paradoxe gigantesque entre qui nous sommes vraiment, entre le divin que nous sommes, et il n'y a que ça qui existe, et puis l'apparence d'une existence séparée. Par exemple, ici, nous sommes un groupe, une certaine autour d'une table, et puis partout, c'est séparé. Et on dit, on est 7 milliards d'individus sur cette planète. Mais ces 7 milliards, c'est la même chose. C'est qui nous sommes. Et il n'y a pas que le courant miracle, il n'y a pas que le dialogue sur l'éveil, etc. Même Socrate, sa maxime, c'était gnotis eoton. Gnotis, c'est un impératif de gnose, de sache, de la connaissance. Eoton, toi-même. Connais-toi toi-même. C'est ça la clé. Et la question, c'est qui nous sommes? C'est toujours cette même question. Et curieusement, aujourd'hui, nous sommes, si on prend, souvent on dit la leçon du jour dans le courant miracle, et sans m'en rendre compte, tout à l'heure, j'étais amené sur Internet à regarder la leçon du jour, par hasard, entre guillemets, il n'y a pas de hasard, c'est la leçon 139, et qui est « J'accepterai l'expiation pour moi-même ». L'expiation, ce n'est pas du tout ce qu'on croit, c'est-à-dire c'est la vision que tout est un. Mais il n'y a que ça. Et c'est pour ça, c'est la connaissance de qui on est, donc. Et qui on est, c'est Dieu. C'est Dieu et tout ce qui est. Donc, c'est l'unité absolue de toute chose. Au milieu d'un monde qui semble être complètement séparé, et nous semblons être un petit personnage isolé au milieu de 7 milliards d'autres personnages, sur une petite planète, isolé dans une galaxie gigantesque où il y a 240 milliards d'étoiles dans la galaxie, et puis si on regarde l'univers, il y a 350 milliards de galaxies. Donc c'est complètement hallucinant. Hein, et voilà, et on est là au milieu de ça, complètement isolé. Il y a un côté terrifiant. Alors donc, qui nous sommes? On se rend compte peu à peu qu'on joue une pièce de théâtre. Alors on dit, oui, d'accord, ok, on joue une pièce de théâtre, c'est bien gentil, mais en attendant, on est dedans. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, et le message est toujours le plus simple, c'est qui nous sommes, le message. C'est-à-dire qu'en fait, comme je suis tout ce qui est, et ce qui est, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la présence. Donc, je ne peux prendre conscience de qui je suis qu'en vivant qui je suis, c'est-à-dire en choisissant l'amour. Donc, le message est toujours le même, il est toujours extrêmement simple. C'est ce que disait Abby tout à l'heure, on répète toujours la même chose, hein, on parle toujours la même chose, c'est qui nous sommes, et c'est l'amour. Et donc, dans la leçon, par exemple, d'aujourd'hui, de la leçon 139, j'accepterai la vision de qui nous sommes pour moi-même. Évidemment, quand je fais ça, j'accepte pour tout le monde. Pourquoi ? Eh bien, parce que qui nous sommes, c'est nous sommes l'un. Un, c'est-à-dire que tout frère, toute sœur, les 7 milliards que nous sommes, sont totalement divins. Et donc, j'accueille pour moi-même le fait que tout est un, et donc que tous mes frères et sœurs sont totalement innocents, totalement divins, et ne sont que lumière. Malgré l'apparence. Et c'est là qu'il y a ce paradoxe gigantesque entre une apparence de dualité, de séparation, donc menaçante, où il faut s'occuper de la survie d'un corps, mais on n'est pas le corps, mais on croit être le corps, et on a fait exprès de choisir cette expérience, où on peut dire que c'est Dieu ou la vie qui s'amuse avec elle-même à choisir une expérience de dualité, donc imaginer, parce que c'est impossible de la dualité, mais c'est imaginer, et effectivement, on peut imaginer ce qu'on veut, mais c'est irréel, c'est impossible. C'est ça la grande clé, et c'est que cette imagination, eh bien, elle est imaginée, inventée, elle n'est pas réelle. Voilà.
Alors moi j'ai envie de rebondir sur une phrase que tu as dite sur le fait que il y aurait apparemment un plan divin pour chacun, que, comme si tout était planifié. Alors peut-être, je n'en sais rigoureusement rien, moi j'ai plutôt la sensation qu'on est quand même extrêmement créateur de notre propre existence et que même si peut-être on est là quelque part avec une mission entre guillemets pour quelque chose à peut-être réaliser ou pas, parce qu'on peut peut-être rater le but, j'ai quand même l'impression qu'on est avant, j'ai pas l'impression d'être dans un, enfin peut-être qu'il y a un plan, mais j'ai surtout l'impression d'être, de fabriquer ma propre vie au-delà de d'une volonté vraiment divine. Je me sens pas une marionnette, je sens que c'est à chacun de faire un peu de l'or avec soi-même, quoi.
Effectivement, tu poses la question du choix qui revient tout le temps. Et tout revient, tout est une question de point de vue. En fait, est-ce que Dieu a un choix? Il n'a pas le choix de ne pas être Dieu. C'est-à-dire que c'est ce qui est. Mais dans l'imagination, il semble y avoir des choix. Et c'est utilisé pour le réveil. Donc cette notion de choix, et le cours en miracle nous le dit tout le temps, en disant choisis. Socrate disait « Connais-toi toi-même », donc il y a un choix. Dans les leçons du cours, par exemple, il y a des leçons qui dit « Le ciel est une décision que je dois prendre ». Donc, a priori, il y a un choix. Le ciel, c'est-à-dire, c'est le bonheur. Je décide le bonheur, parce qu'effectivement, je suis créateur. Et donc, j'ai le choix de ce que je veux. Et qu'est-ce que je veux? Ben, je veux être heureux. Et en fait, je m'aperçois, si je regarde vraiment mes motivations, qu'il y a une partie qui va être malheureuse, il y a une partie qui veut souffrir, il y a une partie qui va être malade. C'est pas évident ce que je suis en train de dire là, pourtant c'est tout le cours en miracle et tous les nouveaux enseignements. Ce que j'appelle nouveau, il n'y a pas de nouveaux enseignements, mais disons, on regarde maintenant d'une manière plus honnête, sans concession, des erreurs qu'on a faites dans le passé, où on a été drogué. Et donc, il y a quelque chose de fort avec « je regarde en face ». Et je reste dans la certitude de qui je suis et de qui et de ce qui existe. C'est déjà même dans la Bible, par exemple, l'histoire de Job dans la Bible, c'est ça. Où Job est là, il a plein de possessions, et puis tout d'un coup, il perd tout, sa femme, ses enfants, tout le monde meurt, il n'a plus rien, il est sur un tas de fumier, il se gratte ses ulcères, et puis il est là, alors que c'était un homme honnête, on dit, c'était un homme de bien, on va dire, et il dit « qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, finalement, il y a des tas de discussions, et à la fin, il dit « j'ai vu Dieu ». Et tout d'un coup, il est rétabli. En fait, c'est-à-dire c'est sa vision qui a changé. Et on s'aperçoit qu'effectivement, c'est fondamental que notre vision change, parce que nous sommes créateurs. Et c'est Dieu a créé l'homme à son image, tout ça, c'est des façons d'exprimer, puisqu'il n'y a que Dieu. Donc, la création dont on parle, et effectivement c'est un concept du courant miracle, mais de tous les vrais enseignements, la création c'est pas ce qu'on pense. C'est pas une projection. La création c'est une extension de soi-même. La vraie création. Donc c'est pour ça que nous sommes l'extension de la vie, nous sommes la manifestation de la vie, c'est ce que Jésus appelle le Fils de Dieu, c'est-à-dire, mais c'est l'extension de Dieu, ou manifestation de Dieu. Et effectivement, c'est pour ça que ces créations, à l'image de Dieu, on a tout pouvoir de création, c'est-à-dire d'imagination. C'est pas évident, hein, mais donc, effectivement, c'est même incompréhensible, c'est totalement incompréhensible ce que je suis en train de dire, pour la croyance à la séparation. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est très difficile et qui, ça semble prendre du temps, c'est que nous sommes conduits à passer d'un monde à un autre. Mais ces deux mondes sont totalement incompatibles. C'est le monde de la séparation, parce que, le monde de l'ego, et puis le monde de la non-séparation. Soit l'un est vrai et l'autre n'est pas vrai, ou c'est le contraire. Alors si on est là autour d'une table à parler, si la planète Terre existe, même si elle est menacée, même si elle est souillée, etc., ben on parle des tas de choses... Ça existe. Et c'est ça. Et la leçon du jour, qui est la leçon 139, où j'accepterai la... C'est intéressant, cette leçon, pour ceux qui ont le courant miracle, qui veulent regarder, vous allez voir. Cette leçon, que je regardais tout à l'heure, dit bien, je vais accepter la vision que tout est un pour moi-même, ce qu'on appelle l'expiation, mais ça veut dire tout est un, et je l'accepte pour tout le monde. Et c'est cette acceptation qui libère tout le monde, parce que quand j'accepte que tout est un, ben j'accepte que tout est un. Donc, c'est ma vision intérieure qui change. Alors on va dire, oui, mais moi, j'y arrive pas. Ça reste au niveau théorique, ça. Effectivement. C'est pour ça qu'il y a des exercices, c'est pour ça que, et ça va beaucoup plus loin qu'un courant miracle, parce que toute notre vie n'est qu'un exercice que le plan divin nous propose d'instant en instant. Effectivement. Et à ce moment-là, on se met à dire, mais je veux choisir. Par exemple, ces derniers jours, j'étais en cheville avec des personnes, soit à Paris, soit ailleurs en province. Et puis, hier et avant-hier, et beaucoup de personnes me disaient « mais je ne suis pas heureux ». Et le cours en miracle nous dit « le ciel est une décision » ou « le bonheur est une décision ». Pardon, « le bonheur est une décision ». Donc effectivement, on est invité à rechoisir. Et le cours en miracle nous dit, par exemple, ton frère est ton sauveur. C'est-à-dire que toute relation que tu as avec un frère ou une sœur, avec n'importe qui, c'est une occasion de rechoisir. Hein, on est bien d'accord. Mais, dit le cours, par exemple, dans la leçon, le ciel est une décision que je dois prendre. Si on regarde comment c'est écrit, c'est dit, à un moment, tu t'apercevras qu'il n'y a pas eu de choix. Donc, il y a la notion de choix qui est utilisée pour que finalement, on voit qu'il n'y a pas de choix. Mais c'est la vision qui a changé. Et donc, dans ce jeu formidable que nous avons créé, parce que nous sommes co-créateurs du jeu, parce que nous sommes l'esprit, puisqu'il n'y a que Dieu, il y a comme une dichotomie, il y a comme quelque chose qui ne va pas du tout, qui paraît impossible, c'est-à-dire une illusion et la réalité. Et on est entre les deux. Et c'est la beauté de cette expérience humaine qui est incroyable. C'est pour ça que ça passionne beaucoup d'autres mondes extraterrestres, d'autres mondes de lumière, en disant, mais vous avez une expérience extraordinaire, parce que vous êtes dans un noir absolu, vous êtes dans une illusion formidable, dans un monde où il y a des opposés très forts, hein, et vous êtes en train de vous réveiller à l'amour. Et comment on se réveille à l'amour? Ben, c'est en s'aimant. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le message, il est très simple. C'est, on est appelé à vivre l'amour, à poser les bagages, à exprimer l'amour, et à choisir l'amour, effectivement. Et on choisit l'amour d'une manière très concrète. Et ça m'est venu aujourd'hui, ce matin, parce que j'étais dans cette tristesse un peu, avec beaucoup de gens qui m'ont parlé de ça, en me disant, mais effectivement, on n'est pas heureux, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on nous donne des choses très concrètes. On dit, respirer l'amour, par exemple. Respirer l'amour, c'est quoi? Ben, on respire tous ici. Hein, quand on commence à naître, on commence par inspirer. C'est la première des choses qu'on fait. Parce que on est... relié au cordon ombilical, on ne respire pas, et puis on coupe le cordon, et qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut de l'air, donc on inspire. Et c'est symbolique, mais c'est très important, parce que c'est ça, on reçoit. Et donc, un exercice, ça consiste à respirer l'amour, parce que l'amour, c'est ce qui existe, c'est ce qui nous sommes. Et quand je suis au milieu de mes difficultés dans la journée, je ne sais pas quoi, je peux dire, mais qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui est réel? Qui sont mes frères et sœurs? Bon, je parais victime, j'ai des policiers qui me collent des contraventions injustes, j'ai ceci, cela, bon, bref, j'ai un contrôle fiscal, j'ai mon conjoint qui ne me supporte plus, enfin bref, plein de choses. Mais Qui sait tout ça? Est-ce que c'est vrai que Dieu est tout ce qui est? Et là, on met tout sur la table. Et donc, on choisit. Eh oui. Et donc, peu à peu, on apprend à choisir toujours la même chose, comme tout maître. On choisit l'amour. On choisit la réalité. Donc, effectivement, il y a cette notion de choix. Et peu à peu, et c'est ce que nous dit la leçon 139, dit en fait, il n'y a pas de choix, parce que c'est comme si Dieu n'a pas de choix. Donc, il y a un jeu où il semble y avoir un choix. Le choix est utilisé, et peu à peu, il n'y a plus de choix. Le choix a disparu, c'était une illusion. Mais c'est une illusion qui nous aide à sortir de l'illusion. C'est comme le pardon. C'est comme le pardon, et je vais parler, je vais dire un mot, je vais te passer le micro, tout à fait, ou au contraire. Ah, pardon. Et je, ben ok, je parlerai du pardon tout à l'heure.
Je voudrais savoir si je peux poser une question très concrète. J'ai actuellement vraiment du mal à parler. Parce que je suis vraiment complètement dans la non-dualité. Je viens de perdre ma mère, elle s'est suicidée et s'est jetée du balcon du 5e étage. Et donc, elle ne m'a pas donné le choix. Elle a cherché le bonheur certainement, mais elle ne l'a pas trouvé. Et par son choix de finir avec je ne sais pas quoi, avec ses problèmes, mais je suis dans le, je sais pas, dans quoi, dans la dualité de cette séparation. Et évidemment, je peux choisir, voilà, j'accepte, puis final. Mais bon, c'est assez récent aussi. Et j'aimerais bien savoir ce que vous pouvez m'en dire. Merci.
Je connais un peu le micro. Alors, ce que je voulais dire avant que tu n'interviennes, finalement, dans ce sens-là, j'ai aussi perdu ma mère récemment, et aussi une amie. Et c'est un thème qui, en fait, comme tous les obstacles de la vie, comme tout ce qui nous arrive, peut prêter à avancer ou à stagner ou à voire même reculer. Ceux qui partent sont partis. Ils ne reviendront pas. Ça, c'est une première chose qu'il nous faut accepter. La deuxième, c'est qu'en partant, ils nous ont laissé un message qu'il nous appartient de traduire et de comprendre. Et le message n'est pas forcément celui d'ailleurs qu'il voulait nous laisser, c'est celui que nous allons recevoir. Je voulais rebondir, je reviendrai aussi après sur ce que je disais tout à l'heure. Oui, le corps est une illusion, mais c'est une belle illusion, il faut s'en prendre bien soin. C'est ce que j'ai compris quand le mien a commencé à se dégrader, quand mes amis sont partis. Et en fait, c'est un petit peu la problématique de la conscience qui doit jongler avec une illusion pour sortir de l'illusion, mais elle ne peut utiliser comme clé que l'illusion. Voilà. Et la leçon que m'ont donné les gens qui sont partis, c'est que j'allais partir moi aussi un jour, que mon temps est compté, que c'est un formidable rappel, que le temps qui m'est imparti est encore à vivre sur cette terre. Je peux choisir effectivement de le subir ou de le transformer. Je peux en faire quelque chose de très beau, qui sera utile aux autres aussi, parce que je pense que si on est là aussi, c'est pour partager et pour aider, d'une certaine façon, nos frères et sœurs. Rien n'est vain, et si on n'a pas, si effectivement on est dans un plan qui est écrit, c'est pas parce qu'on sait qu'on est dans un plan qu'on va aller forcément mieux. Mais le fait de savoir que la part de décision qui nous revient quant au choix de vivre ou de ne pas vivre, puisque c'est celui qu'apparemment a fait ta mère, est aussi un choix tout à fait respectable dans les deux sens. Simplement, si toi tu es là et si nous sommes là, si je suis là, c'est parce qu'on fait aussi un choix quotidien de rester. Et que si on fait ce choix-là, c'est qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui brille et qui demande à vivre. Et à s'exprimer. À travers l'illusion de la conscience, à travers l'illusion du corps, bien sûr. Mais on vit avec. On est là. C'est nous. Voilà. Et je pense aussi à ce plan divin. Il y a une vieille phrase, une vieille blague racidique qui dit « L'homme fait des plans et Dieu rigole ». Voilà, je crois que finalement pour moi l'important c'est pas de savoir qu'il y a un plan, c'est de savoir comment je me vis à travers ce moment-là, à travers ce qui m'est proposé. Voilà.
Merci. Alors moi, je me sens guidé à parler du voile de la séparation. En fait, il y a un passage du cours en miracle qui est très beau, qui parle de ce qu'on appelle la petite idée folle. Il dit que nous sommes des êtres divins, dotés de pouvoirs divins, extrêmement puissants, qui ne sont pas dans l'espace ni dans le temps. Mais qu'à un moment donné, nous avons eu l'idée de poser la question, et si les choses n'étaient pas ce qu'elles sont? Et si nous pouvions sortir des mondes divins ou du monde divin? Si nous pouvions sortir de l'amour, que seraient les choses? Et parce que nous sommes des êtres divins, cette question a été honorée. C'est-à-dire que Dieu a permis que nous créions, nous fabriquions un monde qui n'est pas réel, puisqu'il n'y a que l'unité, et ça c'est impossible de sortir de cette unité-là. Mais ce que nous avons fait, c'est nous avons voilé notre esprit divin. Et nous avons imaginé, comme si c'était un petit sommeil, et que nous avions... nous étions couchés et endormis un petit peu, et nous avons rêvé d'un monde qui ne respecterait pas les lois divines, qui serait en dehors des lois divines, dans lequel les choses pourraient être autrement que parfaites, que ce qu'elles sont, que dans l'unité, etc. Donc, pour que ce jeu puisse se dérouler parfaitement, ça n'a pas été possible de conserver notre perception divine. Ça n'a pas été possible de se rappeler de l'unité. Et donc nous avons intentionnellement joué ce jeu en voilant notre perception divine. C'est ce qu'on appelle le voile de séparation. C'est pour ça que en ce moment on vit une période qu'on appelle la levée du voile, l'apocalypse. Et que certaines vibrations semblent aller de plus en plus vite. Le temps change de dimension, ça s'accélère à toute vitesse. On semble aller vers un point, une spirale ascendante qui culmine en un seul point. Il y a beaucoup de choses qui émergent de nous, chez beaucoup de frères, il y a cette intention de s'alléger, de se purifier, de nettoyer des lourdeurs. J'en sais quelque chose, hein, puisque j'anime des groupes dans ce sens-là. C'est de plus en plus puissant, hein, ce phénomène pour moi. Voilà. Donc il semblerait que... l'expérience humaine et ce voile de séparation devient de plus en plus ténu et laisse percevoir de plus en plus la lumière, notre lumière. Voilà, donc tout ça comme introduction pour dire il y a réellement deux niveaux de perception. Il y a le niveau de l'unité dans lequel il y a ni temps, ni espace, ni monde, ni corps, mais il y a esprit en pure félicité, en pure joie et de manière éternelle. Hein, c'est même l'éternité, c'est pas un mot qui est juste puisqu'il n'y a pas de temps, mais dans un instant présent qui se renouvelle tout le temps. Et puis il y a le monde que nous rêvons et dont certains en ce moment commencent à sortir du rêve. Donc ces deux mondes-là, comme disait Sylvain, sont pas compatibles. Hein, c'est-à-dire que soit je suis dans l'un, soit je suis dans l'autre. Et à un moment donné, je peux contacter l'un avec une pensée de peur, je peux être dans le monde de l'ego et donner réalité à tout ça. Et là, c'est ma réalité. Et avec une pensée de pur amour, de pur accueil, de non-jugement, je suis dans le monde de l'unité. Et dans ce monde-là, je suis déjà qui je suis. Hein, je suis hors du temps, je respecte ma nature profonde. Donc, chaque fois qu'on dit quelque chose, il faut se rappeler que nous pouvons parler soit du niveau de l'illusion, de ce monde humain, hein, de cette planète qui semble très réelle, soit nous pouvons parler du niveau de perception de l'unité. Et que dans le monde de l'illusion, de l'aventure humaine, apparemment, il y a des choix. Apparemment aussi, il y a un plan. Et dans le monde de l'unité, tout le monde est déjà à la maison. Donc, il n'y a besoin d'aucun plan. Il n'y a même pas besoin de pardonner. Il n'y a même pas besoin de faire quoi que ce soit, puisque tout est déjà accompli. Donc, il semblerait que nous étions endormis et pour sortir du rêve, nous avons besoin d'un plan. Mais qui a fait ce plan? Si nous sommes les dieux, les êtres divins qui sommes déjà dans l'unité, ça ne peut être que nous. Hein. Donc nous avons programmé notre rêve et nous avons également programmé la sortie du rêve. Et c'est, la sortie du rêve, c'est le plan. C'est le plan de sortie. Donc c'est bien au niveau de l'unité que c'est fait. Nous avons écrit le scénario depuis l'endormissement jusqu'au réveil, de A à Z. Mais nous avons soigneusement oublié les détails, occulté les détails. Sinon, l'expérience de la vie humaine n'aurait pas duré un milliardième de seconde, parce que nous saurions que c'est un jeu. Donc nous avons joué un jeu, mais nous avons en même temps pris le scénario, nous avons brûlé, effacé, sorti de notre mémoire, et nous avons pris le scénario pour une réalité. Donc c'est pour ça que dans ce plan, alors que j'ai écrit les règles du jeu qui permettent de sortir de l'endormissement, dans ce plan, j'ai l'impression d'avoir le choix, mais je suis aussi celui qui a écrit la façon de sortir du plan. Mais j'ai oublié. C'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir le choix. Tout ça, c'est pas incompatible. Ça peut être un peu difficile à percevoir. Voilà. Ce monde n'est pas réel. Pour certains, c'est effrayant, cette phrase. Le corps n'est pas réel. Mais en vérité, qui nous sommes est bien plus vaste et bien plus ample et joyeux que ça, c'est la félicité pure. Mais si je ne crois qu'au monde humain et qu'au monde terrestre et qu'au corps et qu'on me dit tu n'existes pas, le corps n'est pas réel, je peux comprendre que sans un support non duel pour dire il y a aussi autre chose, je perds pied. Hein, et c'est tout à fait compréhensible. C'est pour ça que certains livres comme Un cours en miracle proposent un accompagnement progressif pour déconditionner l'esprit que je suis le corps, hein, que je vis dans le temps, que je vis dans l'espace. Ça, c'est tellement enraciné et tellement puissant que c'est pas possible de basculer d'un seul coup pour un être voilà qui est vraiment dans le rêve. Hein.
Il y a un auteur, mon auteur préféré, Alessandro Baricco, qui dit « Une chose se passe, quelque chose arrive. Puis une minute passe, une semaine, un mois, et puis la vie répond. » Et c'est un peu comme ça que je vois les chutes, les étapes difficiles, les morts. C'est que quelque part, j'en suis arrivée à un point où j'ai besoin d'un électrochoc, d'une chute, d'une étape, pour me réveiller et pour m'accomplir à quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand. J'ai vécu aussi une mort difficile quand j'avais 19 ans, qui m'a énormément servi et que je remercie maintenant, parce qu'elle m'a beaucoup appris et parce que j'avais besoin d'apprendre ça. Et quelque part, maintenant, je sais que je l'ai... Ouais, c'est difficile pour moi de le savoir, bon. que je l'ai fabriqué complètement parce que j'avais besoin d'apprendre de ça et que j'avais besoin de me relever de ça. Aujourd'hui, je peux remercier que ça me soit arrivé, même si sur le moment, ça m'était pas possible de remercier ça parce que c'était très douloureux. aujourd'hui, je peux remercier que ça m'est arrivé et remercier le bond en avant que j'ai fait finalement avec cette mort qui m'a été très très douloureuse et incompréhensible sur le moment. C'est, voilà, comme l'auteur le dit, c'est la vie qui répond à un moment et sans chercher soi-même la réponse, on la trouve à un moment.
Merci Laura. La notion qu'on joue une pièce de théâtre mais qu'on est tous amour, ça va impliquer, on est tous amour et rien d'autre, à l'infini. Ça implique que toutes nos relations sont initiées par l'amour, tout ce qui se passe. Et tu nous disais tout à l'heure que tu avais perdu ta maman qui s'est jetée par la fenêtre. En fait, à la source de tout ça, il y a un contrat, j'aime pas ce mot-là, mais c'est souvent employé, donc je l'emploie aussi, mais on va dire un accord qui est fait dans un amour incroyable. Et donc c'est fait exprès. Alors évidemment, quand on a... Ça n'empêche pas l'émotion, ça n'empêche pas les larmes sur le moment. C'est ce que vient d'exprimer Laurent en disant, il y a quelques années, j'ai vécu ça, quand j'avais 19 ans, c'était très dur, et puis maintenant, je m'aperçois effectivement que c'est un cadeau. Alors tout est comme ça. C'est pour ça que le cours nous dit, ton frère est ton sauveur, parce que tu peux rechoisir. Neil Donald Walsh, avec ses livres Conversation avec Dieu, puis tous les livres après, c'est un best-seller, c'est connu, il y a des millions d'exemplaires, etc. Il parle de ça dans un petit livre qui s'appelle La petite âme. Donc c'est une petite âme qui brûle d'amour et qui dit, moi je veux vraiment vivre l'amour, je veux vraiment vivre le vrai amour. Et comment je vais faire? Alors il y a une autre âme qui dit, ah bon, eh bien, puisque tu veux vivre l'amour, moi dans ta prochaine vie je vais venir et je vais te faire quelque chose d'atroce, d'épouvantable, de très très difficile, qui va vraiment peut-être te faire hurler de douleur. Il dit pas exactement comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Mais alors je vais te dire une chose, si tu veux vivre vraiment l'amour, quand je vais venir te faire ça, surtout, surtout, n'oublie pas qui je suis. Parce qu'effectivement c'est ça qui libère. Et c'est pour ça que ce dont nous parlons ici, c'est très difficile. Ça veut dire que personne ne peut nous faire du tort. Et que si j'ai un être proche qui décède, soit par maladie, soit par suicide ou par tout autre moyen, en fait, comme tu disais, toi, c'est un cadeau qu'il nous fait. Donc tout ce que nous vivons est un cadeau. Mais tout, absolument tout. Pourquoi? À cause de qui nous sommes. Parce qu'il n'y a que le divin, il n'y a que la lumière que nous sommes. Donc cette pièce de théâtre, elle est jouée par l'amour d'une manière incroyable. C'est pour ça, par exemple, qu'après les attentats de 2001, sur les tours de Manhattan, Crayon, qui est canalisé par Lee Carroll, disait, en fait, pour cet attentat des tours de Manhattan, qui a fait effectivement pleurer la planète, une grande partie de la planète, eh bien, vous avez tous été d'accord pour les tours de Manhattan. Vous avez tous été d'accord pour ce jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, que l'amour que nous sommes a décidé de s'amuser à la séparation. Et c'est vraiment un jeu au départ. Pourquoi? Parce que c'est impossible et on le sait. C'est un peu comme si on va plonger dans un labyrinthe, on va être perdu, on dit, mais on sera perdu, mais on ne peut pas être perdu puisqu'on est tout. Donc c'est marrant, c'est drôle, c'est pour ça qu'au départ, effectivement, c'est un jeu. Mais le jeu est tellement fait avec notre puissance divine incroyable, c'est tellement puissant ce jeu, qu'on semble perdu dedans. Et quand on dit on semble perdu dedans, ben c'est notre expérience. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens disent, mais écoutez ce que vous racontez là, moi ça ne me parle pas. Hein. Parce que moi je suis perdu, je suis paumé, et puis il faut que je m'en sorte, et puis je suis pas bien, et puis j'ai pleuré, et puis... Oui, oui. C'est pour ça que les orientaux disent, dans le bouddhisme, la vie est souffrance, c'est ça que ça veut dire. La vie telle qu'on le perçoit. Et là j'emploie le mot perception, parce qu'effectivement notre expérience humaine, ça suppose la perception. Et le cours en miracle parle beaucoup de perception, et de projection et de perception. Et donc, pour pouvoir s'amuser à la séparation, on a imaginé percevoir quelque chose d'extérieur à nous. Mais il n'y a pas d'extérieur. Seulement, c'est superbement bien fait. Superbement bien fait. C'est incroyable. C'est très, très puissant. Alors, on va dire, oui, mais d'accord, mais en attendant, moi, je souffre, etc. Effectivement, bien, peu à peu, on s'habitue, enfin, on prend l'habitude de revenir à l'instant présent, voir Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent, de dire, bon, ok, j'ai une émotion. Par exemple, ma mère s'est suicidée, et vraiment, je suis triste et je pleure. Oui, d'accord, oui, bien sûr, je m'accueille avec ça. J'accueille ma douleur, je peux accueillir ma colère, l'impression que c'est pas juste. J'accueille l'impression de manquer tout, de ne pas être aimé, d'être rejeté, de ne pas être à la hauteur, d'être coupable. J'accueille tout ça. J'accueille mes peurs par rapport au futur. Ben, c'est ça, être divin. La vie, elle accueille tout. Donc on s'aperçoit, on commence à s'apercevoir que le message qui semble très compliqué, on parle de courant miracle, 1300 pages, on parle d'un tas de choses, de plein de choses, des tas de séminaires, d'ateliers, de ce qu'on veut, des tas de livres, mais le message de base, c'est l'amour. Donc, et ça, c'est pas compliqué du tout. Et ça, c'est qui nous sommes. Seulement, évidemment, comme on est individualisé à un point incroyable, on a des mémoires, et donc le plan divin, on va dire, nous touche, chacun d'entre nous, à des niveaux différents, et c'est pour ça qu'on dit qu'on est sur un chemin hautement individualisé. Quand on commence à comprendre ça, d'ailleurs, ça aide à ne plus juger personne, et à dire, mais chaque chose qui se passe à son sens, c'est initié par le plan divin, chacun est pris en charge soigneusement. Et quand je me fais des soucis, par exemple, pour mes enfants, ou pour des amis, ou pour la planète, je dis, mais non, ok, c'est bien, tu te fais des soucis, mais c'est pris en charge. C'est pris en charge. C'est pris en charge par l'esprit que nous sommes. C'est la pièce de théâtre, elle est jouée par l'amour. Parce qu'il n'y a que l'amour. Donc vous voyez, on revient à chaque fois à l'essentiel, à ce qui est vrai. Et donc ce paradoxe incroyable entre une illusion phénoménalement bien imaginée et puis la réalité qui est l'unité de toute chose, qui n'est que l'amour, que la lumière. Ça n'empêche pas, évidemment, des expériences précises. Par exemple, ta maman, qui s'est jetée par la fenêtre, je la sens ici, elle est là. Pourquoi ? Parce qu'on est un. Et donc, et ça, on peut dire que c'est une forme de canalisation, de channeling, ou tout ce qu'on veut, d'accord, peut-être. Mais ça peut aider temporairement. C'est pour ça qu'on est invités les uns les autres, et que à s'écouter et à s'aider les uns les autres, à se parler, à oser dire, par exemple, bah, tiens, si tu veux que ta maman te parle, on peut écouter ensemble, faire silence et voir ce qui se passe, c'est tout. Tu veux pas, tu veux pas. Et tout est comme ça. De plus en plus, on apprend à les uns les autres à être dans l'instant et à oser s'ouvrir au cœur et à ce qu'on ressent. Donc on ose faire un pas en avant et dire voilà ce que je sens. Si ça intéresse quelqu'un, eh bien, je partage. Si ça intéresse pas, ça fait rien. C'est ce que disait Avi avec son groupe ici en disant voilà, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, vous êtes libre. Et de plus en plus, c'est ça. Il n'y a plus de règles, il y a un accueil, il y a une écoute ensemble. Et finalement, ce n'est pas la forme qui est importante, ce n'est pas le nombre qu'on est autour de cette table ici. C'est l'amour qui nous relie. C'est notre ouverture de cœur, cette dynamique qui est la seule dynamique qui est un sens, c'est l'ouverture, c'est-à-dire c'est le don, c'est le... On s'ouvre, vous comprenez. Et si je fais le geste d'ouvrir, qu'est-ce que je fais? Je suis féminin. Qu'est-ce que fait la femme? Elle s'ouvre à l'ensemencement. Et c'est la vérité qui se révèle à nous. C'est pour ça que souvent je dis que, qu'on soit incarné en homme ou en femme, en fait c'est le féminin qu'on met au centre, c'est-à-dire c'est l'ouverture. C'est le oui, on dit oui. C'était le symbole de Marie. C'est le fiat en latin, que cela soit, c'est oui à ce qui est. C'est pour ça que la seule chose qu'on a à faire ici, c'est à dire oui au plan divin, à dire oui à ce qui est là dans l'instant présent. C'est difficile, parce qu'on a envie de dire non. On dira, mais moi je veux ça, je veux gagner au loto, comme disait la vie, ou je veux ceci, cela. Mais dire oui, ça suppose de tout lâcher. Et ça fait peur à tout le monde. C'est pas nier, ça. Et donc, Donc, je prends chaque expérience, il me vient des pensées, je les laisse venir, et puis, je respire dedans, j'accueille, je prends mon temps, et on commence à comprendre pourquoi le silence un sens, ou comme tu disais tout à l'heure, je vis quelque chose et puis la vie répond au bout d'un certain temps, effectivement, il y a toujours une réponse. La réponse, elle est là depuis le départ, seulement, sans m'en rendre compte, je la bloque. Et donc, peu à peu, il y a des choses qui se débloquent. Et c'est ce qu'on fait tous. C'est pour ça que le cours en miracle le dit, dans son introduction, ceci est un cours en miracle, c'est un cours obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'il faut lire le livre bleu. Ça veut dire que, dans le sens obligation, dans tout ça, c'est toujours, ça ne peut pas ne pas être. Ça veut dire que tout le monde est sur un courant miracle, évidemment. C'est-à-dire que tout le monde est dans un processus d'éveil. Et le but de notre incarnation, ici, de cette fraternité, de cette expérience que nous vivons ensemble, je parle des 7 milliards, sans exclure personne, hein, quelle que soit l'apparence temporaire, c'est pour nous réveiller ensemble. Et nous sommes en train de découvrir que c'est non seulement cette planète, mais c'est l'univers entier qui se réveille. L'univers qui est imaginé. Donc il y a un jeu formidable. Et le courant miracle arrive à un certain moment à parler de ça d'une manière qui peut paraître incroyable, en disant le moment où le fils, c'est-à-dire l'expression du père, l'expression de la source de la vie, le moment où il s'est endormi et le moment où il se réveille, c'est le même instant éternel. Et c'est comme une fraction de seconde à peine perceptible, comme un frisli à la surface d'une eau calme, et en fait il ne s'est rien passé. Donc tout ce monde, cet univers, toute cette dualité, en fait, n'est pas réelle. Mais elle semble être réelle. Vous voyez, donc c'est pas facile. Alors, on peut dire, ça vous parle, ça vous parle pas. On s'aperçoit qu'à certains moments, ça peut aider. Mais à chaque fois, on dit, mais oublie tous les concepts. Et finalement, le message, c'est toujours, de quoi j'ai envie vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et, ben, j'ai envie d'être heureux. Et puis, qu'est-ce qui existe? Est-ce que Dieu est heureux? Est-ce que Dieu est... Ah oui, on dit Dieu est joie, Dieu. Mais il y a Dieu et tout ce qui est. Donc, je m'aperçois que je vis une expérience où je sens ne pas être heureux, et pourtant, il y a une injonction, il y a une révélation en disant, mais il n'y a que la joie et que le bonheur qui soit réel. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette existence infinie, réelle, magnifique, incroyable, elle est infinie. Je ne peux pas la saisir. Parce qu'elle est infinie. Je ne peux que l'expérimenter et la vivre. Et en fait, on l'expérimente tous, à tout instant. Donc on a choisi cette pièce de théâtre, et on est bien piégé dedans, et le courant miracle nous dit, de l'intérieur de cette pièce de théâtre, c'est-à-dire de l'intérieur du système de pensée de l'ego, avec la croyance à la séparation, vous ne pouvez pas vous en sortir. Évidemment, je crois que la séparation est réelle. Ben, je vis la réalité de la séparation, donc je vis la mort, la souffrance, la vieillesse, etc., la peur de mourir, etc. Donc, la seule chose, c'est le lâcher prise. Poser les armes. Alors, on a des tas d'exemples, comme Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King. Bon, ça, c'est bien, ça nous aide. Ça nous aide à quoi? Ben, à s'occuper de nous-mêmes. Hein, à s'occuper de nous-mêmes. Et à dire, oui, mais le monde va me rejeter. Ben oui, ben effectivement, ils ont été rejetés, etc. Donc, on est sans cesse appelé à vivre ce dont nous parlons. Et on le vit quand? Maintenant, parce qu'il n'y a que maintenant. Donc c'est extrêmement simple. Ça paraît très compliqué, mais c'est hyper simple.
Oui, je voudrais rebondir sur ce que tu disais, David, tout à l'heure, à savoir qu'il n'est pas simple de se dépouiller de ce voile d'illusion que la société nous a, enfin que la vie en commun, la vie humaine, nous a inculqué, ce qui me rappelle un peu les notions de tonal et de nagual de Carlos Castaneda. Mais il y a quand même un phénomène que je vois de plus en plus récurrent autour de moi, c'est l'émergence de conscience nouvelle chez les enfants. Alors là, je peux pas parler du courant miracle, je le connais pas, je vais plutôt parler de ce que je connais, de mon expérience. J'ai un petit garçon qui, lorsqu'il avait 5 ans, alors qu'il grimpait à sa mezzanine pour aller se coucher, s'est retourné vers moi avec de grands yeux. Il m'a dit « Papa, j'ai bien fait de te choisir comme papa. » Et à peu près un an et demi plus tard, il me disait « Tu sais, papa, je pense que peut-être la vie, c'est juste une illusion et qu'on commence vraiment à vivre après la mort. » Je ne me rappelle pas que moi, à son âge, j'ai eu de telles pensées. Donc c'est là. Là, il ne faut pas être pressé. On va pas se déconditionner comme ça sur un claquement de doigts. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des appuis, des atouts qui arrivent, je trouve, autour de nous. Et pour ce que tu disais tout à l'heure, Sylvain, le moindre des paradoxes, pour moi, n'est pas que on a besoin d'être ensemble pour se rappeler, pour reprendre une phrase que j'avais lue sur un monastère en Italie, que c'est dans le silence intérieur qu'on trouvera notre maître. Et on a besoin des autres pour ça. C'est-à-dire que la présence des autres va nous ramener à nous profondément, par le témoignage de l'existence de nos frères et sœurs, pour nous rappeler que dans notre silence, il y a notre maître, et que, évidemment, au fond de tout ça, il n'y a personne puisque nous sommes qu'un. Mais ça, c'est une expérience personnelle. En parler, je ne suis pas certain qu'en parler beaucoup soit forcément utile pour les gens, j'en sais rien. Je pense qu'on est tous amenés à utiliser des petits outils de rappel quotidien. Une chose que j'ai vue dans mon expérience personnelle, c'est que la beauté du monde... Voilà, je suis artiste, donc quand je suis sur scène, j'essaie de donner quelque chose. Et quand ça marche, je me rends compte que ce que j'ai donné, ce n'est pas forcément ce que je voulais, mais c'était quelque chose de fort qui a touché les gens. Autrement dit, j'étais dépositaire, humblement, de quelque chose que je ne comprends pas, et je ne pense pas qu'il faille que je le comprenne, mais dont je sais qu'il est très fort, puissant, et qu'il fera du bien aux gens qui le recevront. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas un parallèle à faire avec les enseignements. J'ai toujours pensé en fait que selon les êtres, les individus, tel ou tel enseignement pouvait être plus ou moins approprié. J'ai eu la chance d'en croiser pas mal dans ma vie. Et en fait, au final, tout se ramène à la même chose. Tout ramène à l'océan. Voilà, donc... Des fois, oui. C'est tout. Non, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, en disant ça, je me dis, c'est bien le silence.
Merci, Bob. Alors, moi, je suis guidé à aborder les sujets de niveau vibratoire. Qui inclut aussi quatrième dimension, cinquième dimension et aussi le concept de l'ascension. Alors je lisais que l'ascension, c'est pas monter dans un état vibratoire différent, c'est la lumière qui vient sur Terre, qui vient dans la matière. Alors il y a une chose qui me vient, c'est l'amour est la plus haute fréquence possible dans l'univers. L'amour vrai, hein, l'amour divin, c'est pas l'amour humain. C'est pas je t'aime si, c'est je t'aime point. Il n'y a jamais de condition derrière je t'aime. Comme Dieu, hein, je t'aime, je dis oui à tout ce que tu fais. T'es libre complètement de ton expérience. Alors, ce niveau vibratoire-là, pur, absolu, certains disent qu'il ne peut pas tenir dans un corps parce que le corps ne peut pas le supporter, il exploserait littéralement. Et dans notre, donc, pour habiter des corps, notre esprit divin a dû réduire sa fréquence. C'est ça le niveau vibratoire. On a choisi des fréquences plus basses, donc on a choisi l'amour conditionnel, entre autres. Mais on a aussi choisi la peur, la dépression, l'angoisse, la tristesse, qui sont de l'amour divin réduit, jusqu'à ce qu'il puisse tenir dans un corps. Et les diverses variations de ces états vibratoires-là. Donc, en vérité, sortir de l'illusion, c'est d'une certaine manière... choisir des expériences qui font monter le niveau vibratoire jusqu'à ce que ce niveau vibratoire ne soit plus compatible avec la matière. Hein, ça paraît simple, hein, mais en vérité, chacun fait ces expériences-là lorsqu'il choisit la peur dans une décision, dans une situation où il y a besoin de choisir. Je me laisse influencer par la peur ou lorsque je choisis l'amour dans une autre, dans une certaine situation. C'est ce que je disais tout à l'heure dans les phrases, entre « est-ce que je choisis d'être heureux ou d'avoir raison ?» Hein? Quand je choisis d'avoir raison, alors je manifeste la présence de l'ego, hein, celle qui est la volonté, celle qui limite l'expérience, et celle qui est manifestement la... qui révèle la séparation, hein, qui révèle que nous sommes séparés, puisque moi j'ai raison et toi tu as tort. Ça fait de nous des adversaires et surtout des êtres séparés. quand je décide d'avoir raison, lorsque je parle avec quelqu'un, quand je décide d'être heureux, alors c'est une liberté totale donnée à l'autre. Tu veux penser ça, pense ça. Moi, je pense autrement ou je ressens les choses autrement. Mais c'est bien comme ça. Ton expérience est parfaite et la mienne aussi. Et ça ne nous empêche pas d'être heureux tous les deux. Dans cette déclaration-là, il y a une liberté totale, il y a aussi un amour, et la vibration monte. Hein. Chaque fois que je choisis l'amour, et en vérité c'est valable dans toute situation où il y a un choix à faire, je peux choisir l'amour ou je peux choisir la peur. Mais parfois, l'ego parle en premier avec une voix forte, et je vais entrer dans la réactivité, je vais pas réfléchir, je vais me laisser entraîner par des blessures ou des choses comme ça, à réagir, à attaquer. Voilà. Donc, on parle de troisième dimension, où il y a beaucoup plus d'énergie, de peur, de quatrième, où ça commence à s'alléger, c'est-à-dire que là, toutes les vieilles blessures commencent à remonter en disant « nettoie-moi, 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 je t'en supplie ». Parce que lorsque quelque chose monte en fréquence, ce qui est lourd ne peut pas monter, ça va de soi. C'est pour ça qu'on ne fait pas des cloches en plomb, parce que ça ne résonne pas. Hein, et que ce qui est léger peut vibrer, mais ce qui est lourd ne peut pas vibrer plus haut. Donc la quatrième dimension, c'est déjà orienter nos actes et nos vies avec l'amour. Faire des choix élevé. Et quand je fais des choix élevés, j'augmente mon propre niveau vibratoire. Ce qui fait qu'une situation que je voyais avant dans le jugement, je vais la voir dans la compassion peut-être, ou dans la compréhension. Et même si je ne suis pas d'accord avec Marine Le Pen, mais ce n'est qu'un exemple, parmi d'autres, avec Nicolas Sarkozy ou avec Hitler, hein, même si je ne suis pas d'accord avec ces modes de pensée, ce sont des expériences qui ont pour but, pour nous humains, de choisir entre la peur et l'amour, y compris dans des situations apparemment extrêmes, y compris quand quelqu'un que j'aime beaucoup quitte le plan terrestre et meurt, apparemment termine sa vie. Est-ce que, je vais considérer ça comme une expérience, mon âme est venue ici faire des expériences, dont le seul but est de choisir la peur ou l'amour. Si je choisis la peur, je peux refaire à nouveau et à nouveau et à nouveau une autre expérience de peur. Et puis un beau jour, j'entendrai l'appel à m'éveiller à l'intérieur qui dit « aime ». Aime parce que ça fait du bien d'aimer, parce que c'est ta nature d'aimer. Parce que ça, tout d'un coup, la vie semble vaste et non pas étriquée. Le bonheur commence à durer et n'est plus très limité dans le temps. Donc, aime, c'est un appel que j'ai en moi. Je peux pas m'en séparer de cet appel, parce que c'est ma maison, c'est ma nature. Je suis venu de là, j'y retournerai. Même si le temps, c'est une éclipse, c'est une illusion, et ça s'est jamais passé. Mais dans ma perception, ça se passe. Hein. C'est un autre niveau de perception. Donc, l'ascension, c'est ça. C'est pas quelque chose qui va nous arriver. C'est pas les extraterrestres avec leurs soucoupes qui vont venir et ils vont ouvrir les portes. Ils vont nous dire, on vient vous sauver. Même si l'ego attend beaucoup que ça vienne de l'extérieur, hein, et attend beaucoup à propos de date. Le 21 décembre 2012 à minuit, plus besoin de s'occuper de rien. On va être pris en charge. Complètement. Et là, j'arrête de vivre, j'arrête de me centrer sur ce qui se passe. Je m'en réfère à des sauveurs ou à... Même le plan divin peut être incarné par l'ego en disant jusqu'au 21 décembre, je fais ce que je veux, je m'occupe de rien, pas de mon évolution, pas d'aimer, pas de choisir. Non, j'attends le moment X parce qu'à ce moment-là, tout sera réglé. Voilà, il ne s'agit pas de ça. Hein. Une descente de la lumière dans la matière... C'est je choisis la lumière pour moi et donc je commence à m'alléger en vibration, je commence à m'alléger en choisissant le plus possible et le plus souvent possible l'amour au lieu de la peur. Alors l'amour c'est n'importe quoi, la bienveillance, la gentillesse, la bonté, la générosité, il y a plein de déclinaisons mais c'est toujours issu de l'amour. Et la peur c'est toutes les déclinaisons qui abaisse mes vibrations, hein, la méfiance, le doute, la tristesse, la colère, tout ça c'est issu de la peur. Mais c'est pas pour autant mal, hein, ce sont des expériences que j'ai choisi de vivre en tant qu'être divin qui voulait tester ce que serait un monde de non-amour. Bon ben c'est réussi, on peut seulement dire c'est parfaitement réussi, hein. Et cette expérience apparemment, et de nombreuses sources qui pour moi concordent, tire à sa fin, c'est-à-dire que la pièce de théâtre arrive à son acte final. Et ça ne veut pas dire que j'arrête de suivre ma guidance ou de faire ce que j'ai à faire. Bien au contraire, c'est plus que jamais le moment de faire ce que je sens de faire. Par exemple, moi j'ai senti d'agrandir les groupes du lundi et de diffuser, d'offrir un espace de diffusion plus grand à la connaissance. Hein. Parce que c'est quoi l'expérience humaine ? C'est nous sommes sortis du monde de la connaissance absolue et nous avons choisi la non-connaissance. Et nous avons choisi, partant de la non-connaissance, de retrouver la connaissance. C'est quand même fabuleux. C'est un voyage extraordinaire. Nous, on a l'impression que notre vie est petite et minable et difficile et douloureuse. Mais comme disait Sylvain, les mondes subtils et les êtres de lumière nous regardent en nous traitant de super-héros. Parce qu'on a inventé quelque chose qui n'existait pas avant. Oublier totalement qui nous sommes. Et par nous-mêmes, en suivant notre appel intérieur, nous le rappeler. Donc en ce moment, l'humanité commence à s'éveiller. Il y a un phénomène de bascule, c'est-à-dire que passé un certain pourcentage, chacun influençant des dizaines d'autres, l'humanité entière bascule dans la conscience. Parce que impossible d'élire Hitler si la majorité des Allemands sont dans la conscience. Impossible. Simplement, c'est le reflet d'un état de conscience, un dirigeant, hein, et qu'il soit Hitler ou quelqu'un de très bon. Donc, la nouvelle Terre, c'est juste ça, hein, la cinquième dimension, un monde basé sur l'amour, la fraternité, la solidarité, c'est juste ça. Quand chacune de mes décisions sera issue de l'amour, alors ma vision va changer. Chaque situation que je jugeais, je pourrais entrer dans un esprit de coopération, de solidarité, de partage beaucoup plus facilement parce que j'aurais élevé mes vibrations. Et élever ses vibrations, c'est à chaque fois que j'ai le choix, choisir l'amour. Ça paraît simple, parfois ça ne l'est pas, mais moi je dis, lorsque j'ai fait le mauvais choix, d'abord l'univers va toujours me proposer un autre choix pour choisir, plus tard, 10 minutes, un quart d'heure, une heure, une vie, plus tard, on va dire, tiens, et maintenant, qu'est-ce que tu choisis, hein ? Partant de mes expériences, celles que j'ai voulu en tant qu'âme, je me suis dit, j'ai choisi 1000 fois ça, maintenant je vais donner une chance à l'amour, et je vais choisir l'amour. À partir de ce moment-là, l'univers ne me représentera plus la même situation. C'est ce qui se passe, hein, quand j'ai des compagnes qui se succèdent dans ma vie, avec toujours, qui me présentent toujours la même problématique. Hein. Apparemment, c'est elles, mais au final, c'est mes choix et ma vision. Comment je vois ça. Donc, continuons. Si nous voulons créer la nouvelle Terre, si nous voulons élever les vibrations de toute l'humanité, occupons-nous de nous et de rien d'autre. Hein, parce que comme moi j'élève mes vibrations, je verrai l'amour en face. Parce que la même situation, je peux la voir avec ma vision juste ou avec ma vision de peur. Il y en a qui me disent le Wi-Fi, c'est dangereux. Moi je réponds, moi j'ai pas peur. Quand je me protège, quand je sens que j'ai besoin de me protéger parce que c'est basé sur la peur, j'abaisse mon niveau vibratoire. C'est simple comme, hein, dès que j'ai peur, bah, je vibre moins fort. Et donc, je deviens perméable aux énergies qui peuvent apparemment me nuire. Hein, je me déclare vulnérable. Bon, je dis pas qu'il faut s'exposer au Wi-Fi comme ça, comme on veut, volontairement. Mais si je n'ai pas peur, en même temps, je fais confiance que je suis pas qu'un corps et que ou que mon esprit a un pouvoir tellement grand sur la matière qu'il trouvera une manière de faire face à ça. Et donc, ça revient encore à un niveau de vibration. Hein. Lorsque j'ai peur, j'abaisse mon niveau et puis je commence à devenir plus perméable à quoi que ce soit. Et puis celui qui est réfractaire ou qui a peur, qui a besoin de se protéger, c'est ok, c'est aussi l'expérience qui est à faire. Il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Voilà. Voilà, chaque seconde de ma vie, j'ai le choix, et est-ce que je suis capable de faire des choix plus élevés dans une même circonstance? C'est ce que j'ai appris. Je vous lirai juste la leçon que j'ai tirée, qui est parfaitement pertinente pour ce que je viens de dire. Leçon 263, ma sainte vision voit toute chose pure. Alors sainte, ça veut dire pure, hein, ça veut dire juste aussi. Quand j'ai une vision juste, ben, tout ce qui se passe, c'est juste. Hein, parce que je peux le voir partant d'un état d'esprit tranquille, unifié. J'ai parlé.
Moi, je voudrais partager mon expérience qui... Et qui peut paraître paradoxal par rapport à ce qui vient d'être dit, enfin pas forcément paradoxal, mais en fait moi je fais l'expérience que j'ai été dans un lieu où, je vais dire comme ça, où j'ai rencontré l'unité dans des rencontres et où où quelque part j'ai été un peu abusée, maltraitée. Et en fait, moi je fais l'expérience que alors ça peut paraître être la colère, mais plus je dis ma colère ou plus je clarifie ce que je vis, et ben plus je peux élever mon niveau vibratoire. Et en fait, vraiment, enfin, je sais pas comment expliquer, mais en fait, je sens vraiment ces deux niveaux-là. Je me dis, soit je suis dans un endroit, soit je suis dans l'autre, et je peux pas être dans les deux en même temps. Et ça, je le sens vraiment, mais tout le temps, c'est assez drôle. Et qu'en fait, je sens que j'ai besoin, et tu disais tout à l'heure, j'ai besoin, enfin, j'ai besoin de la clé de l'illusion pour sortir de l'illusion. Enfin, si tu as dit ça tout à l'heure, et je ressens ça. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être dans la colère ou d'être dans quelque chose qui peut paraître de l'ego, pour sortir de l'illusion et aller dans le niveau de l'unité. Voilà. Et du coup, voilà, c'est vrai que quand j'entends, après, quand je vous entends, je me dis, à ce moment-là, quand je clarifie les choses, je me sens dans la colère, je peux me sentir dans le jugement, donc je me sens dans le niveau de la séparation, et en même temps, je sais qu'en faisant ça, j'élève mon niveau vibratoire, et je vais vers autre, et ça m'aide, moi, à aller sur mon chemin, à être dans un autre, dans le niveau de l'unité. Parce que ce que je sens aussi, c'est que l'amour, alors peut-être je suis à côté de la plaque, mais j'ai l'impression que l'amour, c'est aussi, parfois c'est aussi la vérité, et la vérité elle n'est pas toujours, enfin c'est la vérité, je sais pas comment, mais c'est aussi, enfin en tout cas c'est sa vérité, et enfin c'est pas que être gentil, c'est pas que cucu les petits oiseaux l'amour, enfin c'est ça que je sens aussi moi, c'est que l'amour profondément, parfois clarifier une situation si la situation elle est complètement merdique dans un système, être là pour dire voilà non ça va pas parce que ça c'est juste pas correct, enfin vis-à-vis de soi, hein, en parlant de soi, pour moi quelque part à ce moment-là je fais un acte d'amour, voilà.
Oui, j'ai envie de rebondir sur quand tu parles de colère. Moi je pense que la colère c'est toxique quand on se laisse engoncé dedans, mais que ça peut être, il y a de saintes colères, c'est-à-dire que parfois il est nécessaire de se mettre en colère pour dire non, ça ne me convient pas, ça je n'en veux plus, et je pense que ça peut être un acte salvateur de se mettre en colère et de ne pas accepter n'importe quoi. Par contre, ce qui est important, c'est d'identifier que là on est en colère et qu'on ne doit pas y rester. C'est ça aussi qui est, qui me soit, enfin comment dire, Il y a des étapes. Il y a une étape où, oui, je me mets en colère parce que je ne veux plus ça. Et puis après, qu'est-ce que je mets en œuvre pour traverser, pour que les choses, que de tels actes, que je ne les subisse plus et que je sois... protégée, que je me protège, parce qu'on n'est pas protégé, on se protège. Moi, j'ai par contre, je vois dans ma vie, le compagnon de ma maman a été quelqu'un d'extrêmement toxique pendant de longues années pour moi. Eh bien, il y a eu un moment où, s'en prenant à ma fille, j'ai posé un acte que c'était terminé, que, au nom de l'amour pour ma maman, j'avais accepté de continuer à fréquenter cet homme, mais qu'il y a un moment où ça va trop loin et que tant pis, je choisis l'amour pour mes enfants et pas l'amour pour ma maman. Et si elle-même, ce qui est le cas, elle a continué de venir me voir et je n'ai plus à subir cet homme parce que cet homme est toxique. Je ne lui en veux même pas. Je n'ai même pas de haine. Je ne veux même pas m'encombrer de ce genre de choses. Par contre, c'est terminé. Ma porte est close. J'ai plus à subir ce genre de choses. Voilà, c'est juste.
Oui, ce que je ressens dans ce que tu disais, c'est que c'est pas tellement de la colère. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt une forme de violence. La colère, quand elle est quelque part en confiance, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas franchement de la colère, c'est, ok, face à une situation, j'ai besoin d'assurer un certain rôle, j'ai besoin de dire et d'exprimer certaines choses. Je le dis, mais je sais que je suis en train de les dire. Déjà, la façon dont tu en parles me laisse à penser que tu as fait déjà un petit peu le choix d'une certaine forme de confiance. Ce qui est ravageur, certainement, c'est la violence. Ça, oui. Mais quand Avi dit que la colère diminue le taux de vibration, ça, je peux tout à fait le comprendre. Mais à un moment donné, une forme de conscience peut accepter de prendre une forme de colère pour signifier quelque chose, effectivement. Et de toute façon, comment se retrouver si on ne se perd pas? Comment peux-tu sortir de la colère si tu n'y es jamais rentré? C'est bien. Moi, j'aurais envie d'inviter tout le monde à vivre des expériences un peu extrêmes. Comme ça, ben, c'est la voie du bouddhisme. Quand vous connaîtrez vos extrêmes, vous saurez où est la voie du milieu. Vous saurez où est le milieu. Faut pas, c'est nous. Si on nous a donné la capacité à rentrer en colère, si nous nous sommes donnés selon les points de vue, peu importe, au final, c'est que ça doit être vécu. Après, libre à la conscience que nous devenons peu à peu, d'en faire ce que nous voulons et ce que nous pensons être bon pour nous. J'ai eu la chance de rencontrer Alejandro Jodorowsky qui ne se privait pas, lui, des fois, de une belle colère. Je trouve ça très sain, finalement. Et très enrichissant. Ça nettoie. J'ai parlé.
Oui, avec ce qui a été dit, ça me revient tout à l'heure. Avi parlait de faire des mauvais choix. Et peut-être ça peut être salutaire de clarifier un peu cette notion de mauvais choix. En fait, c'est des choix de fonctionnement. C'est-à-dire que quand on dit un mauvais choix, c'est pas que c'est mal. C'est qu'en fait, on fait un choix et on choisit quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport à ce qu'on veut vraiment. Ce qu'on veut vraiment, c'est être heureux, c'est aussi simple que ça. Et donc, le choix de la séparation, cette expérience incroyable, ça ne fonctionne jamais. Parce que, d'accord, peu à peu, par exemple, le cours en miracle va nous dire... La maladie est une défense contre la vérité. C'est-à-dire que ça veut dire on veut être malade, on a une partie qui veut être malade, une partie qui veut prouver qu'on est vraiment victime, etc. Mais comme on est créateur, ben on vit cette sensation d'être victime, et donc ce malheur. Et en fait, on fait des choix sans cesse qui ne fonctionnent pas. Et donc un mauvais choix, c'est une erreur de vision. C'est pour ça que le cours en miracle parle d'erreur, et non pas de péché. Rien n'est mal, le mal n'existe pas. Notre vision, dans cette expérience de séparation, notre vision est fausse. Elle était fausse au départ, on s'est amusé à ce jeu. Et donc on s'amuse à imaginer la séparation, c'est impossible. Donc ça suppose automatiquement, de venir s'incarner, ça suppose automatiquement la culpabilité et la peur. Culpabilité par rapport au passé, ce qu'on imagine n'avoir pas fait, avoir raté, et la peur par rapport à ce qui peut nous arriver. Et donc, on fait sans cesse des choix, et ça ne fonctionne pas. Par rapport à ce qu'on veut vraiment, qui est le bonheur, c'est évident. Même l'ego, hormis les taureaux, bien sûr. Mais l'ego, c'est une vision, ça n'a rien de mal. C'est un jeu qu'on choisit d'imaginer la séparation. Donc c'est neutre. C'est très important cette notion d'innocence. On est tous innocents, on joue à un jeu de séparation, c'est tout. C'est pour ça que le cours va nous dire, le Fils de Dieu est innocent, c'est son vocabulaire, hein, bon, faut comprendre ce qu'il y a derrière, enfin on peut comprendre. Le Fils de Dieu est innocent, et c'est dans son innocence que se trouve son salut. C'est quand il voit que tout est innocence, ça n'est qu'un jeu. Et à ce moment-là, il est sauvé de l'illusion. C'est-à-dire, en fait, la culpabilité disparaît, et puis, voilà. Alors, on peut dire, mais j'ai encore peur du futur, ok, mais je sais que c'est une illusion, ça va. Donc, il y a des mauvais choix, c'est des choix qui ne fonctionnent pas par rapport à ce que nous voulons vraiment. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que c'est mal. Et ça, c'est une notion qui a l'air de rien, mais c'est gigantesque. Ça veut dire que ce que choisit tout le monde, chacun choisit avec sa vision de l'instant, et donc c'est ok. On a choisi cette expérience de séparation. Et en plus de ça, on a choisi des rôles qui sont plus ou moins agréables, pas agréables les uns pour les autres. C'est pour ça qu'on est tous des cadeaux les uns pour les autres. Et on dit souvent que les rôles qui nous paraissent les plus négatifs autour de nous, c'est ce qui nous sert le plus. On va dire ton ennemi est ton sauveur, par exemple, des choses comme ça. Bon, mais ça veut dire que dans ce jeu formidable, tout est cadeau, y compris ce qui peut paraître négatif. Et les relations qu'on a, les uns avec les autres, bien sûr, on dit, mais non, les relations positives, moi je suis amoureux, ou je me sens bien avec telle personne, oui, exactement, très bien. Mais pourquoi j'ai telle relation avec cette personne, et puis cette autre personne, et encore cette personne? Ça fait partie du plan divin. Et donc tout est cadeau, c'est pour ça que le cours nous dit, à chaque fois tu peux rechoisir, et il nous dit ton frère est ton sauveur, c'est-à-dire que n'importe qui te permet de rechoisir. Tu es dans une relation facile avec quelqu'un, d'accord, ok, tu te réjouis, on se réjouit. La personne peut disparaître, elle peut s'en aller, et alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas manquer. Et c'est ce paradoxe des relations humaines où on va chercher un conjoint, ou un compagnon, une compagne, et puis finalement c'est un marchandage, on va le chercher parce qu'on manque, donc la personne va m'apporter ce qui me manque. Donc quelque part, tôt ou tard, je vais la haïr, c'est-à-dire je m'aperçois que je lui ai donné, je me suis aliéné à elle, c'est-à-dire que je dépends d'elle, et si elle s'en va, je suis perdu. Et quand on nous dit par exemple, mais est-ce qu'elle t'aime toujours, est-ce que tu l'aimes toujours? La question, en fait, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question d'ego qui veut dire est-ce que tu es toujours attiré par cette personne? Ou est-ce que cette personne est toujours attirée par toi? Très bien, ça fait partie du jeu, c'est fait exprès par l'esprit. Et quand on tombe amoureux, c'est fait exprès par l'esprit, ça a un sens, parce que tout a un sens, tout ce qu'on vit est parfaitement à sa place. Ce qui est intéressant, c'est que, quel est le but de tout ça? C'est l'éveil, l'éveil à qui nous sommes, c'est que nous sommes éveillés, il n'y a que des éveillés. Donc c'est retrouver notre liberté totale, notre puissance infinie, et on se libère les uns les autres. C'est pour ça qu'on commence à parler de relations amoureuses. Et je sais que, par exemple, tout le temps, à chaque fois que je pense à une relation, où on me demande comment tu perçois telle personne, mais je dis, moi, je l'aime. Ou même si je peux avoir une sensation désagréable avec la personne, je sais que c'est une erreur. Et donc, je vais dire, mais je veux voir la lumière en cette personne, parce qu'elle est lumière. Donc cette personne, évidemment, à ce moment-là, est mon sauveur, vraiment. Et on fait ça avec tout le monde. C'est pour ça que je dis, moi, souvent, j'ai de relations avec personne, même si je suis en couple, ou si j'ai des enfants, et j'ai des relations avec tout le monde. C'est la même relation qu'une relation d'amour, une relation amoureuse. Parce qu'effectivement, si, par exemple, je prends un être cher, par exemple, une de mes filles, avec lequel j'ai une relation très fusionnelle, par exemple, ok, très bien, mais et les autres? Mais elle me permet de... Je dis, oui, je t'aime, mais elle me permet d'aimer les autres. Résultat, je m'aperçois que ma fille change. Et tout est comme ça. C'est-à-dire qu'on s'aide les uns les autres, on se libère les uns les autres. Et nos relations sont vraiment, disons, des instruments, des outils, c'est temporaire, libérateurs. qui nous permettent de retrouver qui nous sommes. C'est pour ça que le cours miracle, quand il nous dit ton frère est ton sauveur, ben ça a un sens incroyable. Et c'est les 7 milliards que nous sommes, y compris des relations difficiles. Alors évidemment, c'est pas évident à vivre au quotidien, hein, d'accord, ça prend du temps, mais on est tous là-dessus. On est tous dessus, c'est pour ça qu'on se réveille. Et quand tu nous disais, Bob, que ton fils te disait, oui papa, merci de je t'ai choisi comme papa et je suis heureux de, etc. Évidemment, il y a de plus en plus de phénomènes comme ça. Mais c'est la conscience qui fait ça. C'est parce que les vibrations sont nouvelles. Et quand les extraterrestres ou des êtres de lumière nous disent qu'ils sont, ils voient ce que nous ne voyons pas, c'est pour ça qu'ils sont dans la joie de voir ce qui se passe sur la planète, c'est parce qu'ils savent que l'état de conscience a changé. Donc ça permet des nouvelles vibrations et ça permet aux nouveaux enfants d'avoir des prises de conscience fulgurantes. C'est pour ça que tout va très bien. Et que cette planète, en 2012, on est au mois de mai 2012, on va avoir des surprises extraordinaires dans les semaines, les mois et les années qui viennent, mais à court terme, tout de suite. Parce que l'état de conscience a changé. Et donc, nous sommes dans une pièce de théâtre qui est magnifiquement jouée par l'amour. Et c'est donc cette notion d'amour toute simple qui est tout le temps qui revient et qui est absolument totale. Totale. J'ai été guidé il y a 8 jours à faire, et je vais le refaire en Belgique dans le mois prochain, à faire une soirée et puis une journée et une soirée conférence où j'avais dit je ne sais pas ce que je vais dire, mais le sujet va me venir. 3 jours après, je me réveille vers 6 heures, et tout d'un coup, j'ai vu le sujet de la conférence et le sujet de l'atelier. Et je peux vous le donner, parce que c'est ce qu'on vit tous. Évidemment, c'est un sujet parmi d'autres, puisqu'on parle toujours de la même chose. Mais la conférence du soir, c'était l'illusion du risque en amour. L'illusion du risque en amour. Mais effectivement, il n'y a pas de risque, puisqu'on n'est qu'amour, donc on peut y aller. Alors évidemment, c'est vrai que ça nous fait peur, c'est pour ça qu'on en a. Alors on en parle, bon, bien sûr, mais il n'y a pas de risque. Par exemple, on voit des livres, ces femmes qui aiment trop. Et non, c'est une erreur, c'est ok, ça fait partie du jeu, hein, parce que tout fait partie du jeu. Mais maintenant, on dépasse ça. Non, il n'y a pas de risque. Donc ces femmes qui aiment trop, il n'y a pas à trop aimer, on ne peut jamais trop aimer, alors on y va. Hein, on y va. Bon, ça c'était la conférence. Maintenant, le sujet qui m'est venu aussi d'une manière très claire pour l'atelier du lendemain, c'était comment prendre des décisions amoureuses. Alors, évidemment, comment prendre des décisions amoureuses. Alors, on s'imagine des relations amoureuses, mais tout est amour. Et donc, comment prendre des décisions amoureuses, c'est un art, parce que c'est l'art de prendre des... Oui, c'est ça, non. C'était pas comment, c'était le titre, c'était l'art de prendre des décisions amoureuses. Et l'art, le principe de l'art, c'est que c'est spontané. Un artiste qui cherche à produire pour vendre, c'est pas de l'art, ça marche pas quelque part. Mais l'art, c'est spontané. Hein. On danse, on chante, on fait du pain, on fait un plat, on prépare quelque chose, on fait l'amour avec art. Hein. L'art, c'est le cœur qui parle. Et donc, l'art de prendre des décisions amoureuses, c'est laisser mon cœur parler dans l'instant. Et c'est très facile. Très facile parce que c'est toujours l'instant. Et donc ça passe par, effectivement, un lâcher prise total. Et c'est ça que l'ego ne supporte pas, c'est qu'on arrive toujours à se lâcher prise. Se lâcher prise, c'est abandon. Et dans le livre de Jaïm, La Voix de la Maîtrise, Yeshua, Jésus donne les 4 clés du royaume, c'est sa manière d'exprimer quelque chose. Ces 4 clés, la première, c'est le désir, parce que sans désir, il n'y a rien. La tasse qui est devant moi vient d'un désir, la table, la réunion dans laquelle on est, vous qui écoutez cet enregistrement, ça vient aussi d'un désir, vous choisissez le désir, une fleur, un oiseau, une planète, ça vient d'un désir. Sans désir, il n'y a rien. Première clé. Deuxième clé, clé du royaume, l'intention. Et là, c'est fondamental parce que nous sommes en train de changer l'intention. Nous avons choisi le non-amour pour s'amuser, la séparation. Et maintenant, on choisit l'amour, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et donc, l'intention change. C'est pour ça qu'on va dire, mais on reste sur la... On quitte la pièce de théâtre, parce que le but de la pièce, c'est le non-amour, c'est s'amuser à la séparation. Mais maintenant, donc, on quitte la pièce, mais on reste sur scène. C'est-à-dire, on reste dans cette incarnation, avec tout cette impression d'être un corps séparé, mais
on a changé d'intention, donc on quitte la pièce, on quitte le but de la pièce. Et maintenant, c'est l'amour. Donc, l'intention, c'est la deuxième clé, et on change d'intention maintenant. La troisième clé, c'est permettre. Hein? Permettre. Je permets tout. Comme Dieu qui dit oui à tout. Et donc, parce que je suis Dieu, parce que nous sommes Dieu, nous sommes que la lumière, c'est tout. Donc, on exprime qui nous sommes. C'est cette permission illimitée, infinie. J'ai pas dit cautionner, on cautionne rien du tout, on permet, c'est tout. Comme un enfant qui, lui, il regarde, c'est tout, il permet tout, l'enfant. Il veut jouer, c'est tout, il veut s'amuser. Mais il s'oppose à rien. La troisième clé, donc, c'est se permettre. Et la quatrième clé, alors je permets à l'extérieur, puis la quatrième clé, c'est moi. Donc, je m'abandonne. Et c'est l'abandon, je m'abandonne. Et donc, voilà les quatre clés pour le royaume. Alors, évidemment, c'est le vocabulaire de Yeshua. Le royaume, c'est quoi? C'est qui nous sommes, c'est retrouver cette félicité, c'est retrouver ce bonheur de goûter l'amour, de ressentir l'amour. Mais il ajoute que ça se fait avec un ingrédient majeur et capital. Cet ingrédient, c'est l'humilité. Et qu'est-ce que c'est que l'humilité? Je ne sais rien. Dans cette incarnation, j'ai choisi cette expérience humaine de séparation. Et l'être séparé ne sait rien. Parce que tout est un. Et donc, comme disait Jésus il y a 2000 ans, ou Yeshua ou Jésus, de moi-même je ne fais rien, c'est le Père en moi qui agit. Et pourtant, il dit le Père et moi, nous sommes un. Donc il y a un paradoxe. C'est-à-dire, on est tout le temps entre l'expérience humaine de séparation, puisqu'on l'a choisi, et en même temps la conscience que tout est un. C'est ce qu'on appelle le ciel qui vient sur la terre. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre ensemble. On va appeler ça la nouvelle Jérusalem, la nouvelle façon d'être ensemble. Tout à l'heure, on parlait d'extraterrestres, etc. Et les extraterrestres, ils vivent la même chose. C'est pour ça qu'ils ont des solutions pour nos déchets nucléaires, pour des nouvelles énergies, etc. Mais on en a déjà. Et c'est pas là que ça se passe. C'est l'amour qu'on a ensemble. Et quand on a des visites d'extraterrestres, et j'en ai eu pas mal, moi, et je connais beaucoup d'amis qui en ont, et puis on peut lire des tas de choses là-dessus. L'important, c'est pas la technologie, c'est pas la taille du vaisseau spatial. L'important, c'est l'amour qui nous relie, à chaque fois. Il n'y a que ça. C'est toujours cette notion d'amour qui est la clé dans l'univers, c'est la clé de l'éveil. Et ça, c'est très simple, et ça intéresse tout le monde. Extraterrestres, ça veut dire des technologies incroyables, ou au contraire, pas de technologie. On se retrouve dans un désert en train de manger, de boire un thé à la menthe offert par un berbère, et on est là, on est en amour. Puis après ça, on va avoir un contact avec extraterrestres, avec des données sur des technologies incroyables, ok, mais c'est l'amour qui nous relie qui a un sens. C'est pas les technologies. Et dans l'univers, c'est pas les technologies, ça c'est rien du tout. Parce que, pourquoi? Mais c'est nous les créateurs de l'univers. Alors les technologies, évidemment, on a tout un... C'est nous. Donc on est vraiment... C'est ce que nous explique Yeshua dans le courant miracle, c'est que même tout cet univers incroyable, gigantesque, il est en nous. Et on est beaucoup plus que ça. On est beaucoup plus que cet univers manifesté incroyable. On est tout ce qui est. Et on est esprit infini. Et voilà. Et cet esprit infini est amour. Et donc, vous voyez, on est en train de parler là de vraiment... la seule chose qui importe, c'est l'amour qui nous relie, et c'est l'amour que nous retrouvons, c'est cette communion, c'est ce partage. Et c'est ce que Jésus avait fait il y a 2000 ans, en particulier dans la chambre haute, et avec Avi, là, quand on est retourné. Et en fait, quand il a rompu le pain... Il a dit, voilà, parce qu'il savait qu'il allait être crucifié, donc il a dit, ne vous faites pas souci pour mon corps. Mon corps n'est pas plus que ce pain. Et ensuite, il a pris la coupe, et c'était la coupe du pardon, c'est la coupe de l'amour. On boit ensemble, et ensemble, on se rappelle l'amour qui nous relie. On nous rappelle que nous sommes un, nous sommes frères et sœurs. C'est ça que ça voulait dire. Et ça a vraiment un sens. Ça a vraiment un sens. Et... j'ai presque envie de passer dans l'enregistrement ce que j'ai été amené à faire après à Jérusalem, où je vais le passer d'ailleurs. On va faire une minute de silence et puis je vais vous passer, grâce à Avi qui a un peu accéléré cet enregistrement, dans la chambre haute à Jérusalem, j'ai... enregistré avec une femme américaine qui s'appelle Aliza Awa et qui est chanteuse et qui fait un concert international en octobre gigantesque. Et J'étais seul dans la chambre haute, qui est maintenant une chambre basse, qui est là où Jésus a eu la scène, qui est sous l'église Saint-Marc à Jérusalem. Et elle a chanté, ça dure 1 minute et 50 secondes, elle a chanté une simple phrase qui est répétée, que la paix prévaille sur la terre. Alors elle est américaine, donc en anglais c'est « May peace prevail on earth ». Et grâce à la vie, voilà, on va passer ça. Et donc on fait silence et vous allez voir la vibration. C'est la vibration qui est importante.
J'ai écouté la chanson qui vient, enfin cette, j'allais dire cette prière qui vient de passer, et ça me rappelle une histoire que j'ai vécue il y a peut-être un mois et demi. Donc j'étais dans un bus, j'allais rejoindre une amie et on voulait vendre du muguet pour le 1er mai. J'étais dans un bus avec, voilà, j'étais vraiment pas bien, dans une espèce d'angoisse, enfin dans quelque chose de vraiment pas bon. Et donc j'étais assise sur les places quatre personnes. Et juste à côté de moi, il y avait une femme qui était là, assise, toute seule. Et nos regards se sont croisés, et donc très, très, très brièvement. Et j'ai entendu une petite chanson. Elle commençait à chanter une chanson, une toute petite chanson, comme ça. Et puis les paroles arrivaient. Et elle disait, Dieu est notre sauveur. Donc, et c'était une femme qui chantait. Je crois que c'était un chant chrétien. Donc moi, je suis de confession musulmane, avec tout ce que ça implique de culpabilité et de toutes ces choses-là. Et cette voix, donc au départ, j'entendais petit à petit, et ça, c'est venu en moi en fait, et ça a calmé tout de suite toutes mes angoisses d'un coup. Et je me suis rendu compte que j'étais là où je devais être à ce moment-là pour recevoir cette chose-là et pour me calmer dans quelque chose. Et plusieurs fois, ça m'est revenu en fait. C'est comme si j'ouvrais mes yeux face à quelque chose. Enfin, mes yeux. Voilà, ma conscience s'ouvrait à quelque chose et ces signes revenaient. J'ai vécu je veux le partager. J'ai vécu une fausse couche il y a pas en début d'année, quelque chose de très difficile. Donc je me suis retrouvée à l'hôpital, voilà, dans un hôpital public. On prend très peu soin des gens, de ce qu'ils vivent. Voilà, c'est une espèce d'usine à être humain. Et il y avait une sourate du Coran quand j'étais petite que je connaissais par cœur, que j'ai perdue en grandissant. Et qui m'est revenu tout de suite à ce moment-là. Et c'est là où je me suis dit, on est dans une connexion, dans quelque chose de plus fort qui nous dépasse.
au-delà de la culpabilité religieuse, au-delà de tout ce qu'on a pu nous inculquer, enfin tout ce qu'on a pu m'inculquer étant petite. Et voilà, c'était juste pour vous faire part de cette petite expérience. Voilà.
Merci. Alors moi j'ai une quelque chose à partager qui a été très touchant pour moi à découvrir et qui pour moi préfigure une incroyable bonne nouvelle sur la conscience dans l'humanité actuellement, maintenant. Et quelqu'un m'a envoyé un lien sur un mouvement qui est né en Angleterre qui s'appelle Incredible Edible, les comestibles incroyables. Alors, le fondement même est assez incroyable. Les gens dans l'espace public investissent partout où il y a de la terre et plantent des légumes. Et il y a écrit, il y a la photo ici, food to share, donc nourriture à partager. Donc servez-vous, c'est gratuit. Hein. Il y a certaines règles, prenez une partie de la plante, mais ne prenez pas toute la plante. Voilà. Et c'est dans une ville, ça a commencé il y a 3 ans, ça commence à essaimer dans toute l'Angleterre, ça commence à venir en France. Il y a 2 endroits en France. Le but, c'est de commencer à, avec ces dons-là, ce partage-là, à essaimer l'autosuffisance. C'est-à-dire que cette ville, depuis 3 ans maintenant, les gens consomment à 83% local, à 100% local. Celui qui fabrique du miel ne vend pas son miel aux chaînes de distribution dans tout le pays. Il est consommé dans la ville, exclusivement. Ça, c'est déjà énorme, hein, c'est déjà beaucoup. Mais je vais vous lire quelques phrases qui m'ont carrément sidéré, qui accompagnent ce site. Hein, pour ceux qui veulent retrouver les phrases, c'est sur Être Plus, hein, dans les petites annonces. Êtreplus.fr, la révolution des incroyables comestibles. Et ces phrases sont tellement non-duelles que j'ai commencé à pleurer. Et l'émotion me revient même quand j'ai lu ça. Alors, c'est juste quelques petites phrases. Le processus des incroyables comestibles est un catalyseur. Il permet d'aider à opérer un changement de regard qui conduit à créer une autre façon de vivre harmonieuse, féconde et bienveillante. Les habitants quittent la croyance erronée que tout est séparé, divisé et conflictuel pour survivre et prennent conscience qu'en réalité, tout est relié et interagit. C'est des légumes, hein ? Par conséquent, du point de vue collectif, si vous agissez avec des intentions de dialogue, de respect de l'autre, sans jugement, en acceptant les différences de chacun, dans le partage et les coopérations à tous les niveaux, vous créez une nouvelle dynamique vertueuse et donc, au bout du compte, une nouvelle économie vertueuse. Il y a une co-responsabilité de chaque co-créateur dans ce nouveau type d'échange. Voilà, c'est juste une phrase et il y a écrit après « Allez-y, servez-vous, c'est gratuit ». Donc, c'est en effet une boucle vertueuse. Hein. Quand on commence à initier le partage comme un mode commun, vous avez remarqué comment ça parle précisément de séparation et d'unité, hein. Précisément avec les mêmes termes qu'on emploie, et ce ne sont que des légumes. Donc, je plante et j'offre. J'offre le résultat de ma récolte. Je plante dans l'espace public et j'encourage ceux qui veulent faire comme moi en pollinisant. Hein, il y en a qui prennent une petite, ils disent comment polliniser, ils prennent une petite pince à linge. En dessous, il y a un petit ficelle et puis le logo, comestible incroyable, et puis ils l'accrochent à la veste de quelqu'un comme un poisson d'avril, sans que cette personne s'en rende compte. Et puis chacun accroche une ou plusieurs pinces à linge comme ça, parce que ça renvoie au site et ça renvoie à ces idées-là. L'idée de consommer local, ça paraît simple, ça paraît très logique, mais en même temps, c'est une réponse extraordinaire au bouleversement qu'on vit avec la crise, la dette, tout ça. Si on consomme local, il n'y a plus besoin d'aller ailleurs, il n'y a plus besoin de faire ses courses au supermarché, d'acheter des produits qui viennent. On est autosuffisant, hein, et donc c'est comme si dans ma maison j'avais une source, un potager, et que j'avais pas besoin des supermarchés. Donc la notion d'argent et de partage change radicalement. Alors le fait que c'est né à un endroit et que c'est même approuvé par le conseil municipal qui a commencé à autoriser la conquête des espaces publics pour planter des concombres, d'un rhubarbe, n'importe quoi. Au-delà de ces expériences qui sont déjà magnifiques, ça parle d'un changement de conscience. Hein. Comment le fait de baser les actes sur le partage et la conscience et la solidarité crée une boucle vertueuse qui finalement retentit sur tout le monde, y compris ceux qui n'étaient pas à l'origine de ce système-là. Et c'est extrêmement émouvant pour moi de voir qu'il suffit de planter une graine de conscience pour que ça fasse des miracles tout autour. Hein, et ça me parle vraiment d'un réveil, hein, cette chose-là.
Oui, justement, ce dont nous parlons ici, c'est-à-dire cette spiritualité, mais en fait, c'est la clé. Parce que dans cette affaire de Incredible Edible, ce qui est important, ce qui est souligné, c'est que c'est l'état d'esprit. Et c'est par l'état d'esprit à chaque fois que les choses changent. C'est pas la forme elle-même. La forme elle-même n'est qu'un produit qui vient après. C'est l'état d'esprit. Et c'est pour ça que le choix de l'amour et le choix de la non-peur, parce que de dire non à la peur et oui à l'amour, ça devient fondamental, c'est la clé. Hier, par exemple, j'ai passé 3 heures avec quelqu'un pour parler d'un centre, effectivement, et on va en parler de plus en plus. Mais depuis des années, il me vient toujours de dire, le centre, c'est un état d'esprit. Le centre, il est là. Il est en nous. À chaque fois qu'il y a quelque chose, on a envie, on a un projet, vous pouvez avoir un projet de faire je sais pas quoi, tout projet. Mais ce qui est important, c'est l'état d'esprit. C'est fondamental. Et j'ai reçu avec Phoebe Lorraine, il y a une quinzaine d'années, encore par channeling, la visite de l'archange Michael, bref, la signature n'a aucune importance. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui était dit, en disant, oui, vous les êtres humains, vous n'avez pas une grande idée de ce que c'est que la création. Mais c'est que si vous avez un projet, même s'il paraît très altruiste, et on a plein d'idées altruistes, mais si vous faites ce projet avec de la peur, de la culpabilité, des choses comme ça, c'est comme un ver dans la pomme. Parce que vous êtes créateur. C'est pour ça que tout ce qu'on fait, c'est avant tout l'état d'esprit. C'est ce que je disais tout à l'heure en disant qu'il faut être féminin d'abord, c'est-à-dire accueillir ce qui est vrai. Et vrai, c'est qui nous sommes, c'est la lumière, il n'y a que ça de vrai, c'est l'amour. Et à ce moment-là, effectivement, on suit sa guidance et puis des choses naissent, comme par exemple cette chose en Angleterre, Incredible Edible, et puis ça fait boule de neige. Mais si on regarde bien, à chaque fois, c'est l'état d'esprit. Donc, quand nous demandons à notre niveau, on dit « Ah oui, d'accord, mais c'est les Anglais qui font ça, mais moi, là où je suis, je fais rien. Moi, j'ai mes enfants que je l'emmène à l'école, j'ai du mal à joindre les deux bouts, je suis débordé, etc. » Oui, mais ce qui importe, c'est mon état d'esprit. Et ça, je peux choisir, même si je suis débordé. Même si j'ai l'impression de travailler 16 heures par jour, etc. Ok, mais je suis toujours dans l'instant présent. Et même si je suis apparemment débordé, je peux choisir un état d'esprit. Et c'est là que ça se passe. Et quand on parlait tout à l'heure, on a parlé de choix, évidemment, il y a apparemment un choix, et le choix est permanent. Et le cours en miracle nous dit, tu choisis jamais seul. Comment on choisit jamais seul? Pourtant, je suis tout. Non, non. Tu choisis avec un état d'esprit. Et c'est soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire, c'est soit l'état d'esprit de l'ego, de la séparation est vraie, ou tu choisis avec l'esprit de la vérité. En disant, ok, j'ai peut-être peur, je me sens peut-être coupable, mais je veux la vérité, je veux choisir avec l'amour. Donc je demande à l'amour de m'aider à choisir. C'est une façon de parler, bien sûr, puisqu'on va dire qu'il n'y a que l'amour. Alors le cours va dire, vous demandez au Saint-Esprit, c'est dans son vocabulaire, mais c'est une façon d'exprimer avec des mots quelque chose qui est inexprimable, qui est simplement une ouverture, un lâcher-prise, et une ouverture à l'amour, c'est tout. C'est-à-dire, en fait, à l'accueil, à la présence. Donc ces expériences qu'on va d'ailleurs, qui vont s'étaler, on va les en voir de plus en plus, ça vient d'un état d'esprit. D'ailleurs, comment ça a commencé? C'est une femme qui s'est dit, mais bon sang, je veux que ça change, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, elle a, sa fille avait un café, elle a réuni, je crois si c'est ça, elle a réuni une soixantaine de personnes, elle a dit, écoutez, on va... Et puis elle s'est trouvée avec 60 personnes, et elle dit, c'est incroyable, ça crée une dynamique, et de là, tout est venu. Et c'est venu d'un état d'esprit de partage, d'écoute, de se regarder, d'essayer de se comprendre, plutôt de se battre et d'essayer d'attraper, de se sécuriser par des relations particulières. C'est très simple. Et ça, on sait tous ce que c'est, puisque c'est qui nous sommes. Parce que nous sommes qu'amour. C'est pour ça que la partie est gagnée. Hein. Et on va vers vraiment un monde magnifique. On va vers un monde extraordinaire.
Moi, j'ai envie de partager une autre expérience. C'est l'expérience du mouvement des indignés. Qui est né il y a un an, le 15 mai 2011, en Espagne. C'est un mouvement qui a pour principe de base l'horizontalité, le fait que personne n'est supérieur ou inférieur à quelqu'un d'autre, qui se passe en forme assembléaire, tous en cercle, et qui opère par consensus, le fait que tout le monde soit d'accord pour adopter une décision. Déjà, la forme est très intéressante, le fait qu'on doit tous être d'accord pour adopter une décision commune. Et ce que j'ai envie de partager, c'est que j'ai vu ce mouvement beaucoup évoluer depuis ses débuts, où j'ai l'impression, et plusieurs ont eu cette impression aussi, qu'au début, c'était pas évident pour beaucoup d'adopter un consensus, parce qu'il y avait souvent l'ego qui parlait, qui nous amenait à bloquer. Donc on utilise le langage des signes, pour bloquer, c'est ça. Donc souvent, il y avait des gens qui bloquaient au début, et c'était très dur d'obtenir des consensus, les assemblées étaient interminables... Voilà, c'était très très dur d'obtenir un consensus. Et là, ce que j'ai vu en étant à Madrid du 12 au 15 mai, dans des assemblées immenses qui prenaient toute la Puerta del Sol, des assemblées où on était parfois 5000 personnes, c'était des consensus qui prenaient 3 minutes, parce que personne ne bloquait les décisions collectives. Et une de ces décisions collectives était que le mouvement était strictement non-violent et qu'il le resterait. Et c'était quelque chose de magnifique qui a été adopté en 3 minutes et que personne n'a bloqué. Et d'autres décisions comme ça qui ont été adoptées très vite. Et c'est très beau et ça indique qu'il y a une évolution qui est très forte et qui est très rapide et une conscience collective qui prend vraiment forme de l'acceptation de la proposition de l'autre comme ce qui est le plus juste. Pour moi, ce mouvement est vraiment symbolique d'un changement qui est très fort, qui est très très fort.
Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Avi, parce que ça m'a profondément touché quand tu as dit que ça t'avait fait pleurer, ce que tu avais vu. Ça m'a touché parce qu'il se trouve que, de plus en plus, je me sens d'une hypersensibilité incroyable. Des fois, je me dis que la lecture de l'annuaire me ferait pleurer. C'en est un petit peu là, quand même. Mais tout ce qui touche... Tout ce qui met en jeu la notion de fraternité entre les hommes, je suis dedans là. Je me suis demandé si c'était un phénomène personnel ou collectif. Depuis, ça a commencé il y a quelques années, à la naissance de mon fils, en fait, juste après le dernier, celui dont je parlais tout à l'heure. Et ça s'accélère à une vitesse incroyable pour moi. Alors des fois, je me dis, oula, c'est grave. Peut-être qu'il fallait s'en occuper. Et en même temps, j'étais profondément touché par ta réaction parce que j'ai senti que probablement le sentiment que les êtres humains puissent se donner des signes d'amour avait déclenché chez toi comme le résultat d'une longue attente. Quelque chose que tu souhaites ardemment dans ton cœur, que apparemment tu as plus formulé que moi. Mais voilà, ma question en fait, c'est est-ce qu'il y en a d'autres à qui ça arrive, quoi, tout simplement.
Très rapidement, il y a un mouvement comme ça qui est plus anodin, mais qui est plus modeste, mais qui est très joli aussi. C'est des gens qui se promènent avec une pancarte câlin gratuit. je trouve ça assez génial parce qu'on est quand même dans cette, c'est tout simple. Bon, et puis j'ai découvert cette facilité aussi à pouvoir effectivement prendre les gens dans les bras par la biodanza. J'en ai fait un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Et c'est vrai que c'est assez savoureux de s'autoriser à pouvoir faire la collade à tout le monde, qui qu'il soit, et en se dégageant de tout a priori. En tout cas, ce mouvement dans la rue, câlin gratuit, je trouve ça absolument délicieux. Voilà, c'était juste ça.
Oui, bon, pour dire, tu disais, est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Et moi, je dois dire que je pleure très souvent comme ça, et puis aussi quand je canalise. Pourquoi ? Parce que ce que j'appelle canaliser, moi je dis toujours que je canalise pas. En fait, tout le monde canalise, mais quand je me laisse aller, ça m'est arrivé en Israël au moins 5 ou 6 fois dans le groupe, eh bien j'ai des larmes à chaque fois. Parce que je laisse l'amour passer, c'est tout. Et donc ces larmes, je les repousse pas, je les laisse couler devant tout le monde. Je peux être devant, même au micro. J'ai d'ailleurs vu Neil Donald-Walsh, j'ai aussi pleuré comme ça devant une salle de 500 personnes. Mais c'est pareil, et de plus en plus, on a des larmes qui nous viennent parce que c'est des larmes de on dit en anglais release, des larmes de libération, des larmes de joie, des larmes de... Comme si effectivement tu as dit à la vie, mais tu attends ça depuis longtemps, effectivement c'est vrai. C'est comme on est en train de vivre une période en ce moment qu'on attend depuis des millénaires. Et donc il y a des larmes de libération, c'est comme si enfin, et puis on sent l'amour. Et c'est très juste. Et on ose pleurer comme des petits enfants. Et j'ai reçu le message que je passe à tout le monde, parce qu'évidemment, il est pour tout le monde. Il y avait des années, on m'a dit ça à propos de ces larmes. Et ça, j'aime beaucoup. Et si ça peut vous aider, moi, comme ça m'aide. Tes larmes, Sylvain, sont comme des pierres précieuses pour la planète. Tes larmes sont comme des pierres précieuses pour la planète. Alors, ne nous gênons pas.
Je voulais aussi rebondir sur les larmes. Donc, c'est ma fille qui est ici présente, Océane, me reproche tout le temps de pleurer pour un oui ou un non, comme plus qu'elle finalement. Des fois, on est devant un dessin animé, Blanche-Neige ou autre, et elle me dit, mais pourquoi tu pleures ? Et je dis, mais parce que ça touche mon cœur. C'est pas vraiment des larmes de tristesse, c'est vraiment ça, je sens que ça touche mon cœur. Et effectivement, à chaque fois que je m'assois pour méditer, ou quand je vais à la messe, ou ça coule, et je me demande aussi un petit peu comme toi ce qui m'arrive, parce que c'est de plus en plus fort et de plus en plus fréquent. Et ça m'interroge, et ça interroge beaucoup ma fille qui se pose des questions. Alors des fois je me dis, mais est-ce que je suis en train de tomber dans une dépression ou est-ce que c'est autre chose ? Ça m'appelle, ça m'interroge vraiment. Donc merci d'avoir parlé de ça, parce que ça fait du bien de voir que c'est quelque chose qu'on partage.
Ce qui me vient, c'est que en fait ces larmes, c'est le souvenir de la vérité qui les fait sortir. Parce que la vérité, elle est engrammée en nous, et le sens de l'unité, on sait très bien ce que c'est, même si c'est parfois pas conscient, c'est notre maison. Donc quand c'est comme la nostalgie de cette maison, et quand la maison commence à se dessiner à l'horizon, on pleure de joie parce qu'on se dit, ah, bientôt le retour, bientôt cette lumière-là, elle me touche. Dans le cours en miracle, il y a une belle phrase qui dit « L'unité, c'est comme une ancienne musique que tu connais très bien et dont les notes te feraient pleurer. » Et je comprends très bien ce que ça veut dire, même si c'est très subtil au niveau du sens de ça. Et puis, je rebondis aussi sur le fait d'avoir une colère dans le monde humain. Est-ce que ça peut servir l'amour ? Bien sûr, bien sûr. En vérité, c'est pas le sentiment amour ou le sentiment colère qui est important. C'est l'état d'esprit. Et qu'est-ce qui sert l'amour et qu'est-ce qui ne sert pas l'amour ? Dans notre monde humain, il y a un amour qui évolue parce qu'on est dans un monde où les vibrations sont abaissées, donc notre rôle c'est de les élever. jusqu'à revenir à la fréquence la plus haute dans l'univers, sans condition. Mais qu'est-ce qui sert l'amour? Et donc, si je me mets en colère et que ça sert l'évolution de cette personne, alors c'est mon âme qui est inspirée par l'amour, qui me guide à me mettre en colère et à mettre une claque ou à quitter une compagne ou un compagnon, à le laisser en plan ou à la laisser en plan, parce que c'est ce qui va servir l'amour. Et dans notre monde, il y a des bouleversements qui sont utiles. Parce que c'est un monde où des anciennes croyances qui ne servent pas à l'amour ont besoin d'être bouleversées. Comme la crise financière, ça bouleverse une institution qui ne sert pas à l'amour, qui sert juste à s'enrichir et à accumuler du pouvoir sur d'autres. Donc tout ça, c'est le jeu, ça n'est pas jugé. Mais en même temps, le fait que ça soit bouleversé à un moment ou à un autre, c'est compréhensible, puisque c'est des structures... qui ne peuvent pas perdurer parce qu'elles ne servent pas à l'amour et que notre but, c'est de restaurer les lois divines sur Terre et d'écarter tout ce qui n'est pas divin sans rejeter pour autant. Hein, c'est juste, entre amour et peur, je choisis l'amour, mais je ne rejette pas la peur. Parce que si je rejette la peur, j'alimente la peur. Donc, la peur, je la comprends, mais je ne lui donne pas mon énergie ni ma force. Je sais que la peur vient d'un état séparé qui engendre la souffrance à l'intérieur. Et quand je vois qu'une personne souffre, ben je peux compatir au lieu de juger. Je peux la prendre dans mes bras, même virtuellement, même en pensée, lui envoyer des sentiments, des pensées d'amour. Voilà. Donc, c'est sur Terre, on a l'amour humain. Et il est en perpétuelle évolution, alors que l'amour divin, il est parfait par nature. Donc on distingue bien les deux, et que l'amour humain, c'est une perche formidable pour se réveiller. Hein. C'est, même si ces vibrations sont très ralenties par rapport à l'amour absolu, on est dans le relatif. Hein. On n'oublie pas qu'on est dans un monde relatif. C'est-à-dire que tout est relatif à tout. C'est pas... absolu, c'est pas inconditionnel. Mais comme, merci Bob de nous rappeler que on utilise des outils illusoires pour sortir de l'illusion. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est dans l'illusion et il faut trouver des outils dans l'illusion pour en sortir. Et c'est ça la beauté. La beauté de la pièce de théâtre, c'est que tout est faussé, tout est voilé, tout est obscurci. Et là-dedans, on trouve la lumière. Ça, c'est vraiment la gloire de ce qu'on fait. Ici sur Terre.
Je vais partager une expérience, vu qu'on parle beaucoup d'amour. Hein. J'ai découvert le sens de la vie, on va dire comme ça, quand j'étais ado. Et en lisant la Bible, surtout le passage, c'était de Paul, je pense, c'est la deuxième lettre de. Pour les Corinthiens, qui décrit l'amour, le vrai amour, on va dire. Et j'ai eu comme, je ne sais pas, c'était comme une évidence pour moi que l'amour, c'est vraiment le sens de la vie. Et ce moment-là, on va dire, ce jour-là, je me suis sentie, mais j'étais tellement heureuse, je voulais embrasser tout le monde, j'étais dans un extase, mais c'était incroyable. Même les gens que je supportais pas ou voilà c'était depuis ce moment-là en fait je pense que ça a complètement changé ma vie on va dire j'ai toujours cherché l'amour pour moi l'amour c'est l'essentiel c'est vraiment le sens de la vie et j'essaie d'appliquer ça dans tout ce que je fais bon si j'arrive ou pas mais ça reste voilà c'est c'était une expérience que ça m'a guidée et ça me guide toujours. Et on verra bien ce que ça donne.